Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Fage, qui est professeur et directeur de recherche au CNRS en mathématiques et qui est affectée au laboratoire de météorologie dynamique de l'ONS de Paris.
Bravo.
Donc Marie, les travaux de Marie portent sur la dynamique non-linéaire, sur les systèmes dynamiques, mais aujourd'hui elle ne va pas nous parler de ça, elle nous va parler d'un problème qui nous intéresse en qualité autant que chercheur. Donc c'est le problème de la publication scientifique qui est devenu un problème très important. Et donc, merci Marie d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir.
Et voilà.
Merci Leonardo pour l'invitation et pour l'introduction. Au cas où dans la salle il y a des gens qui, parce que je fais aussi de la recherche, hein. Mon domaine principal c'est la turbulence, les ondes LED, tout ce qui est système non linéaire, essentiellement équation de Navier-Stokes. Voilà. Et comme vous êtes des physiciens des particules, je pense qu'on est assez loin. Voilà. Très bien. Ah non, ça c'est bien, c'est plus général. Ben, merci Leonardo, parce que justement, la difficulté que j'ai quand je fais un séminaire sur ce sujet, parce qu'après, j'en fais aussi dans mon domaine, c'est que la salle est... Ouais, on va commencer comme ça. Qui est bibliothécaire? Voilà. Et qui est chercheur, ou jeune, ou thésard, etc. Ben, écoutez, je crois que c'est la première fois que j'ai ce rapport. Parce que les bibliothécaires, à chaque fois que je fais un talk, les bibliothécaires viennent en très grand nombre. On sait peut-être, d'ailleurs, j'ai déjà vu à des réunions couperin, etc. Mais le problème des bibliothécaires, c'est qu'elles connaissent ça aussi bien que moi. Je leur apprends rien. Oui. Vous voyez, tout le message, il est à faire passer aux chercheurs. Et on n'y arrive pas, parce que les chercheurs, vous êtes vraiment sympas d'être venus, parce que vous êtes débordés de travail, vous n'avez pas le temps. Et puis quand même, en moyenne, ça ne vous intéresse pas. Parce que si le système marche... Tout nous arrive gratuitement, on n'a pas à s'inquiéter de comment ça arrive. Hein. C'est le jour où ça coince. Voilà. Et alors, bon, on pense que c'est en train de coincer. Voilà. Bon, donc, ça, c'était une sorte de pré-introduction. Comment faire évoluer le système de publication scientifique en faisant passer l'intérêt des chercheurs devant celui des maisons d'édition. Alors, le système aujourd'hui, disons, là, je commence cette slide par une sorte de vision sur le long terme. Qu'est-ce qu'on aimerait bien? C'est-à-dire la connaissance. La connaissance n'est pas une marchandise, ça c'est pour moi absolument essentiel. Et comme vous le savez, dans beaucoup de domaines, on essaie de tout marchandiser. Et marchandiser la connaissance, ça va être très très grave, parce qu'on ne va plus pouvoir... Le principe de la recherche, c'est le partage. On est dans du collaboratif. On travaille sur les travaux qui ont été développés pendant les, 300 dernières années au moins, et on travaille avec nos collègues à travers le monde. Et donc, si on nous empêche d'échanger, on tue la science, tout simplement. Donc, et pourquoi ce n'est pas de nature marchande, la science? Parce qu'une idée, ce n'est pas un bien matériel. Un bien matériel, si je vous donne ce pull, je ne vous connais pas, vous êtes obligé de me compenser, parce que j'ai perdu le pull, il faut me le payer. Mais une idée, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, si je vous donne mon idée, j'ai enfin quelqu'un avec qui je vais pouvoir... discuter mon idée, l'améliorer, la développer et la corriger. Vous voyez, donc on est vraiment dans le processus inverse. C'est si ça n'est pas échangé, ça n'a pas de valeur pour la connaissance. Vous êtes d'accord? Vous pouvez être un type génial qui avait trouvé un théorème génial, c'est dans votre tiroir et vous êtes mort et personne n'a trouvé votre théorème. Donc voilà, l'échange est au centre de l'évolution des idées et c'est pour moi l'outil principal de la recherche. On est dans du collaboratif. Donc, ça n'a pas de sens de mon point de vue, de commercialiser la connaissance, a fortiori de spéculer. Ce que je vais vous montrer dans le système d'édition scientifique actuel, c'est que ça relève vraiment de la spéculation. Et en fait, ça entrave, à mon avis, le développement de la recherche. Et c'est pour ça que... Alors, comme il y a des jeunes dans la salle, tout ce que je vous dis, c'est bien que vous l'entendiez, mais vous n'en tenez pas compte, c'est-à-dire vous jouez le système. Parce que si vous n'avez, avant d'avoir un poste permanent, surtout, jouez le système. Alors, par contre, tous les gens de ma génération, un petit peu avant, ceux qui sont déjà complètement, qui ont leur position et qui sont un peu en fin de carrière comme moi, on a la responsabilité de faire qu'on ne vous laisse pas un système comme ça pour les jeunes. En tout cas, moi, personnellement, c'est un engagement que j'ai depuis plusieurs années. Ça s'est fait complètement par hasard. C'est parce que j'avais été nommée au comité d'éthique du CNRS. Ça ne m'excitait pas du tout. J'avais dit que je m'intéresserais qu'à des problèmes internes au CNRS donc peut-être soluble. Et j'ai eu à traiter en 2010, je crois, un problème qui concernait Elsevier. Et là, j'ai découvert le poteau rose. C'est-à-dire qu'un chercheur ne connaît pas le système de publication, mais quand il le découvre et qu'il commence à comprendre le fonctionnement et les implications que ça a pour la recherche à plus long terme, là, on commence à se fâcher. Voilà. Alors, je suis sous l'influence de cette personne qui, dans cette salle, a entendu parler d'Elinor Ostrom. Bravo, bravo. Et merci. Merci pour elle. Merci pour la connaissance. C'est la seule femme prix Nobel d'économie. Elle l'a eu en 2009. Et elle l'a eu parce qu'elle a développé toute une façon de penser ce qu'on appelle les biens communs. Alors, les biens communs, c'est très vieux, hein, tout ce qui est... Toutes les traditions de pâturage et traditions de même la pêche en haute mer, on a un pool de poissons. Si on a un qui ramasse tous les poissons, il n'y en aura pas pour les autres. C'est ça la notion de bien commun. C'est fait pour des biens matériels. Donc il faut une gouvernance particulière pour justement qu'il n'y en ait pas un qui prenne la part des autres. Mais l'idée d'un bien commun, c'est que c'est une ressource qui est partagé par tous et qui n'est pas exclusivement privatisé par un ou plusieurs. Et alors, donc, ça a été développé dans le cadre de biens matériels, comme des pâturages ou des choses comme ça, mais a fortiori, dans le domaine intellectuel, pour moi, c'est le bon modèle de gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution pour que tous nos articles soient partagés, ouverts, est disponible à tous sans que personne s'accapare le système. Et je vous recommande ce livre qui est assez vieux, 2006, Understanding Knowledge as Commons. Et donc ça, pour moi, c'est un peu ma Bible et je vous le recommande. Alors, comme vous savez tous, publier, ça veut dire rendre public les résultats. D'accord. Mais il ne faut pas les mettre derrière ce qu'on appelle des paywalls parce que, bon, ils sont publics, mais il faut être très riche pour acheter les choses. Donc, ce n'est pas non plus idéal. Alors, je fais tout de suite aussi une remarque. C'est que, personnellement, je suis assez âgée pour avoir eu un début de carrière où on écrivait les articles à la main, parce que j'avais des formules mathématiques, on n'avait pas d'éditeur de texte, et on les envoyait manuscrits au publisher, qui, là, faisait un travail énorme d'imprimeur. C'était complexe. Et on n'a jamais critiqué les abonnements. Le système était stabilisé depuis au moins une petite centaine d'années. Mais le problème, ça a été l'avènement de l'électronique, que nous, les chercheurs, bon, on n'était pas au courant, on n'a pas fait attention. Mais par contre, les maisons d'édition, elles étaient... Les grosses, certaines, ont vu venir la révolution, parce que c'est, au point de vue technologique, c'est une révolution. Et elles se sont accaparées le système. C'est l'état actuel des choses. Oui, vous avez vu, j'emploie le mot publisher. Alors là, il faut déjà en français. Ah, on n'a pas voté pour qui, si vous voulez l'exposer en anglais. Ah, excusez-moi. Qui ne comprend pas le who doesn't understand French? I can do it. Who doesn't understand English? Ouais, mais pour les jeunes, ça m'embête quand même, non? Ok, vous savez, est-ce qu'on fait un système où vous levez la main et je répète en anglais quand vraiment vous n'y arrivez pas?
Je pense qu'on avait donné tous les annonces en français, donc je pense que le monde bon. Était que tout le monde.
Ok, donc vous allez apprendre un petit peu de français, vous allez même apprendre une sorte de nouveaux mots franglais, mais sur lequel j'insiste beaucoup, qui est le publisher. Parce que la difficulté, si en français, vous savez, maison d'édition, on dit éditeur. Et il y a eu beaucoup de confusion dans la presse, par exemple d'articles dans Le Monde, où ils mélangeaient éditeur au sens membre d'un comité éditorial. Et comme vous le savez, quand on est membre d'un comité éditorial dans le domaine de la recherche, on n'est pas payé par le publisher, donc c'est pris sur de l'argent public, c'est pris sur notre temps de travail. Et on arrivait à des espèces de contradictions bizarres où on laissait entendre qu'on mélangeait les éditeurs au sens editor, qui sont les membres du comité éditorial qui travaillent pas gracieusement au sens où ils ont leur salaire, mais ce n'est pas le publisher, c'est-à-dire l'imprimeur, qui lui va financer ça. C'est financé sur de l'argent public. Donc moi je distingue vraiment, c'est important, la notion de publisher, qui veut dire éditeur au sens français du terme, ou maison d'édition. Et quand je dirais éditeur, c'est au sens editor, c'est-à-dire membre d'un comité éditorial. Vous me suivez? I just translate to be fast here in English. You know, in English, you have publisher and editor. The editor is a scientist paid with his salary by his institution who is doing the peer reviewing, in charge of the peer reviewing. When the paper is accepted, at the end of the peer reviewing process, it goes to the publisher. And the publisher, traditionally, is a printing company. And today, they are mostly big multinational society which are dealing with electronic publishing. All the process now is done electronically. In fact, just at the very end, you could have a paper version, but it's not. The process now is electronic publishing. Okay, but in French, we have the confusion because we have the same word for editor and publisher. Though I introduce a new French word, which is publisher, C-H-E-U-R. Voilà. Ah bah, plus qu'entretenue. Ah bah, c'est... Absolument. Non, non, et les publishers en France en jouent. Par exemple, il y a vraiment plusieurs années, il y a peut-être 4-5 ans, il y avait un article dans Le Monde, il y avait l'erreur, mais grossière, et ça ne voulait plus rien dire. J'ai écrit un droit de réponse, enfin, j'ai écrit au Monde en demandant de publier le droit de réponse. Ce n'était pas un droit de réponse, ce n'est pas moi qui avais écrit le premier article, mais disons, c'était... Bref, j'ai écrit au Monde, ça n'est jamais passé, ils ne m'ont même pas répondu. Et voilà. OK, donc, publier, c'est rendre public. Alors, vous connaissez tous le système, je vais aller très vite sur cette slide qui explique le système, et comme vous êtes chercheur, je ne vous l'explique pas. Par contre, j'insiste sur une chose. Les revues, on les appelle peer-reviewed, on se limite. Hein. Moi, je me limite à la publication des articles de recherche, donc je me limite dans cet exposé aux revues à comité de lecture, donc pour les articles peer-reviewed. Alors, peer, ça veut dire revue par les pairs. Or, un pair, ça ne peut être qu'un chercheur en activité, spécialiste du sujet, en fait, tout simplement capable de comprendre cet article, qui est normalement hautement spécialisé, à la pointe de ce qu'on fait. Et ce n'est pas du tout un éditeur, comme l'entendent les revues Nature, les revues Science, les PNAS, les comptes rendus de l'Académie, même PRL, j'ai la preuve de ce que je dis, Physics Review Letters, qui sont en fait ce qu'ils appellent des éditeurs en résidence, qui sont en fait des professionnels de... l'editing au sens ils participent, c'est en fait eux qui organisent le peer reviewing et c'est eux qui font au moins le premier tri qui consiste, comme vous le savez dans Nature, à jeter la majorité des papiers au bout de 5 minutes. Quand non mais c'est tous maintenant, c'est-à-dire justement le gros problème de ça, c'est qu'ils ont créé une espèce de compétition à l'impact factor des journaux qui fait que, en plus, il y a une autre chose extrêmement malsaine avec Nature, et toutes ces revues multi qui couvrent un très large domaine disciplinaire, c'est qu'automatiquement, ça, mécaniquement, ça leur donne un high impact factor, journal impact factor. Et je pourrais peut-être en parler après. Et la fin du film, c'est qu'ils ont, en fait, les publishers ont structuré un système où c'est eux qui organisent la compétition, c'est eux qui créent, en fait, une fausse compétition entre chercheurs pour cette journal Impact Factor. Et le résultat, c'est que moi, à titre personnel, je suis absolument opposée, j'ai toujours refusé, pour moi-même, c'est-à-dire si mes collègues veulent envoyer un article à Nature, si vous enlevez mon nom. Et pourquoi? Parce que Nature, c'est du news. Ils ne peuvent pas faire le peer reviewing correctement. On pourra en rediscuter, je vous montrerai peut-être à la fin aussi quelque chose là-dessus. Et en tous les cas, les revues, on va simplifier le problème parce qu'il faut que j'avance dans le talk. Les revues dont les éditeurs ne sont pas des chercheurs en activité spécialistes du domaine dans lequel auquel s'adresse cette revue, c'est pas sérieux, c'est pas professionnel. Donc il faut l'éviter à tout prix et il faut le dénoncer. La chose que j'ai poussée, j'étais dans les conseillers de Carlos Moedas, qui est le commissaire européen pour la recherche, je m'avais demandé d'être dans les conseils sur les questions d'open science et j'ai dénoncé ça en disant il faut que toutes les revues très généralistes, qui sont, je ne suis absolument pas contre qu'elles existent, mais c'est des revues de, on va dire, de vulgarisation scientifique de très haut niveau. Entre, et c'est aussi des revues qui sont bien pour faire du transfert entre le domaine des chercheurs, vraiment la recherche qui est en train de se faire, et puis, je ne sais pas, l'industrie et la société en général, les citoyens. Par contre, le peer reviewing, qui consiste à valider les articles, ne peut pas être laissé entre les mains de personnes qui ne sont pas des chercheurs. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc, les revues, le peer reviewing, ça veut dire par les pairs. Et si les éditeurs de cette revue ne sont pas mes pairs, exit. Et... Non, dans le cas de, je peux vous dire, moi ça m'est arrivé, dans le cas de PRL, c'est assez génial. Les référés vont être des pairs, mais ils ont été choisis par un gars qui ne connaît absolument pas le sujet, donc qui ne connaît pas les bons référés du sujet. Moi, j'ai eu un article dans PRL, je crois qu'il est sorti en 2011, où j'ai reçu, il ne faisait que deux rapports d'ailleurs, ce qui n'est pas très professionnellement, c'est mieux quand il y en a trois. Voilà, avec deux rapports, les deux étaient absolument très très négatifs pour l'article. Et donc, je savais que l'article était bon, et j'étais aussi très très pas contente vis-à-vis même du Thésard qui avait fait du très bon travail. C'était la honte de lire ces rapports de référé, tellement ils n'avaient rien compris de l'article. Donc j'ai fait appel. Alors appel, ça a été très bien parce que j'ai eu un rapport de référé qui était plus long que l'article, qui était génial, qui était dithyrambique. On est passé sans problème, on a même eu la couverture de PRL. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éditeurs de PRL, je les ai rencontrés depuis, parce que je me suis un peu intéressée au sujet. Je suis fellow de l'American Physical Society, donc j'étais assez mécontente quand ça s'est passé. Et en fait, ce sont des employés qui eux-mêmes viennent de l'édition, comme les grosses boîtes business, comme Elsevier ou les autres, parce que le pauvre PRL, il est en compétition avec tout ça. C'est-à-dire l'APS, ah, quand même, et beaucoup de sociétés savantes, elles ont un business de l'édition scientifique. Faut pas se cacher.
Même dans des revues, ce genre d'erreur peut être commise même dans une revue où l'éditeur est en chercheur.
Non, mais la chose qui est grave chez PRL, je vais vous dire, la chose qui est grave, c'est que la méthode de base, en tout cas, moi, PRL, vous publiez aussi, vous, dans PRL, c'est que quand vous envoyez l'article, ça passe par l'éditeur en résidence. Ça ne passe pas par un chercheur. Vous avez naturellement les éditeurs qui sont marqués comme responsables. Ils ne sont jamais dérangés à ce stade. C'est celui-là qui fait tout le travail de peer reviewing, de chercher les...
Ce qui n'est pas toujours, d'ailleurs, parce que tu peux retenir, tu peux étranger une partie des solutions et cette part va croissant.
Non, disons, ils sont obligés de le faire parce qu'ils en reçoivent trop. Oui, déjà, ils écrètent comme fait Nature, c'est-à-dire, en gros, ils en gardent, mettons, 20%, qui vont envoyer à des gens qui croient être les bons référis, mais ils n'y connaissent rien, même, ils ne sont pas dans le sujet, donc ils ne peuvent pas savoir comment fonctionne la communauté, qui sont les gens vraiment spécialistes de ce sujet-là. Et puis, pire que ça, aujourd'hui, et c'est, je peux apporter la preuve de ce que je dis, ils essaient de se faire aider par plein d'outils de type, vous savez, en fait, aujourd'hui, tout ne marche que par des plateformes. Donc, quand on a des plateformes de peer reviewing, et là, ils prennent toutes les données et ils automatisent, ils essaient d'automatiser le choix des bons référis. Ils ont des algorithmes de type deep learning pour essayer de trouver les référis qu'il faut. Mais en fait, ils se plantent. Parce que quand on fait de la recherche, on est trop à la pointe pour pouvoir rentrer dans des trucs comme ça, systématiques. Il y a Elsevier qui a un brevet sur online peer reviewing. Il faut commencer à s'inquiéter de ça. Bon, ça sera peut-être pour la discussion après. Il faut que j'avance là. Donc, traditionnellement, la publication, c'est pour rendre public les résultats. C'est très, très vieux. Les premiers journaux, Journal des savants, donc l'Académie des sciences françaises, en janvier 1665, a fait la première publication de ce type. Et puis ensuite, la Royal Society, 2 mois plus tard. Vous connaissez tout ça. Bon, je vais aller très vite sur ces slides parce que vous connaissez ça. Aujourd'hui, les revues sont à péage parce que, comme vous le savez, soit on doit payer les abonnements. On n'avait jamais critiqué ça dans le système ancien, mais maintenant que tout est électronique, on peut quand même revoir la copie. Et puis, donc, comme vous le savez, les publishers ont trouvé cette méthode absolument géniale en disant on va faire payer maintenant les chercheurs. Donc, le lecteur pourra télécharger l'article gratuitement. On va appeler ça l'open access en anglais. En français, je dis accès libre. Par contre, il faut quand même qu'on garde le business en vie. Donc, on va faire payer les gens qui publient, les chercheurs ou leurs institutions. Voilà, le problème, c'est essentiellement, c'est qu'avec l'avènement de l'édition électronique, que nous, on n'a pas vu venir, les publishers l'ont vu venir plus tôt, certains, et ils ont attrapé, ils ont pris un contrôle oligopole du système. Et on est un peu coincé. Je vous conseille fortement ce What is Open Access PhD Comics. Allez voir ça, c'est très très bien fait. Bon, alors pourquoi il faut quand même se méfier aujourd'hui du système ? Prenons là les quatre grands, Elsevier, Springer Nature, Wiley Blackwell et Taylor & Francis, et en fait le groupe Informa, ils dominent le marché mondial. Et il faut voir les ordres de grandeur, c'est-à-dire que le groupe Reed Elsevier, en 2017, c'était 8,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le budget du CNRS la même année, c'était 3,3 milliards d'euros. Donc, on ne joue pas dans la même cour de récréation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté financier qui fait qu'ils sont tout à fait dominants et ils ont des profits qui sont vraiment assez hallucinants. Vous voyez, les profits de Elsevier, là, vous avez l'évolution de 1990 à 2015, c'est 40%. Google, il fait 20%. Apple fait 20%. Donc là, tout de suite, un banquier, il dit oligopole, il y a un problème. Et donc, comme je l'ai déjà dit, le modèle économique qui est derrière l'édition scientifique, il date en fait de l'imprimerie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu cette révolution technologique, l'arrivée du web, l'arrivée de toute la chaîne où nous, on écrit les articles déjà en version numérique et mise en page en version finale, copy ready, camera ready. Et ensuite, une fois qu'ils sont publiés, de toute façon, l'information nous arrive par le web. Ça n'a plus rien à voir avec le système de l'imprimerie. Quelquefois, je m'amuse à te dire, c'est comme si on était au 15e siècle, arrive l'imprimerie. Avant, c'était les manuscrits en particulier dans les monastères, il y avait effectivement des copistes qui transmettaient, la connaissance était transmise via les manuscrits recopiés comme ça. Et puis arrive l'imprimerie, on va dire la ligue des copistes va voir les gouvernants de l'époque en leur disant, écoutez, là il y a des forgerons qui ont inventé un nouveau système. On va employer leur système, mais par contre, ce n'est pas des gens sérieux, ils n'y connaissent rien au point de vue de la connaissance. Donc, il faut nous donner le contrôle de l'imprimerie. Alors, on donne le contrôle de l'imprimerie, les politiques, pensant bien faire, donnent le contrôle de l'imprimerie aux copistes dans les monastères, qui naturellement utilisent l'imprimerie, mais à un rythme d'un livre par an ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire au même rythme que les copistes, pour ne pas faire de la concurrence, pour garder le travail. Et aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'ils ont compris que ce n'est pas tenable sur le long terme, mais aussi longtemps que nous, on collabore et qu'on se rend compte de rien, on peut continuer. Bon, donc l'idée, c'est qu'il faut fondamentalement changer le modèle économique, qui n'a plus de sens, il était fait pour l'imprimerie, il n'a pas de sens à l'ère du numérique. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous, autres chercheurs, on reprenne le contrôle des revues. Alors, on fait déjà l'évaluation, on l'a déjà, on écrit déjà les articles, mais maintenant, on doit prendre la responsabilité de la dissémination de nos articles, parce que c'est quand même notre intérêt que notre travail soit connu et utilisé. Alors, j'aime bien cette carte, je ne sais pas si vous la connaissez. Quand vous allez sur le site WorldMapper, qui est vraiment intéressant, l'édition, pour le côté publication scientifique, il n'y a pas de données depuis 2016. C'est le plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? C'est en fait le nombre d'articles de recherche publiés en l'année 2016 divisé par le nombre d'habitants de chaque pays. Qu'est-ce qui saute aux yeux quand vous voyez une carte comme ça ? Vous voyez que la France publie beaucoup, vu qu'on a une surface très, très, beaucoup plus grande que notre surface habituelle. Bon, les États-Unis, ça va. L'Amérique latine, c'est pas beaucoup. Bon, la pauvre Afrique, elle publie vraiment pas beaucoup. La Chine se met vraiment à publier. J'avais avant la carte de 4-5 ans plus tôt. Entre-temps, la Chine a beaucoup grossi. Le Japon aussi publie beaucoup. beaucoup par rapport à sa population. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit avant, les publishers aujourd'hui, ils sont d'accord pour l'open access, c'est-à-dire le lecteur qui ne paye pas, aussi longtemps que les chercheurs payent, ou leurs institutions. C'est le modèle qu'ils ont appelé Gold Open Access, parce que ça fait très chic, la voie dorée. Alors, s'ils arrivent à imposer ce système, ce qui malheureusement a l'air d'être le cas aujourd'hui, je pense que la recherche française a un gros problème, parce qu'on ne va pas pouvoir payer, on va à la banqueroute, ou alors il faudra nous dire, vous avez le droit à un article par an, qu'on ne peut pas s'offrir mieux. Et c'est très grave éthiquement. D'ailleurs, c'est ce que je dénonçais quand j'avais en 2011, j'ai écrit le rapport du comité d'éthique sur les relations entre les chercheurs et les maisons d'édition. Et là, je dénonçais sur des bases éthiques que la publication à compte d'auteur, ça n'a pas de sens pour la recherche. Et c'est dangereux, bien évidemment, parce que je pourrais détailler plus si, pendant les discussions. Alors, quand on a vu que le système n'allait pas du tout, on a été un groupe de chercheurs autour de Tim Gowers, des mathématiciens, à lancer un boycott d'Elsevier. On a lancé le boycott d'Elsevier pour essentiellement une raison. C'était l'époque, vous vous en souvenez peut-être, où il y avait toute cette discussion sur des projets de loi, surtout au Congrès américain, SOPA-PIPA, et il y avait un projet de loi qui était le Research Works Act, qui allait donner, en gros, je simplifie, le contrôle de l'open access aux publishers. Clairement, il y avait eu du lobbying d'Elsevier qui avait convaincu deux congressmen de déposer ce bill. Et donc, on lance ce boycott. Et à notre surprise, la surprise, ça a été surtout que ça a été très, très vite, quasiment immédiatement relayé par la presse. Et curieusement, la presse financière. Tim le lance le 21 janvier. Et dès par exemple, The Economist sort le 9 février un article, notre mouvement s'appelle The Cost of Knowledge, et il y avait un article, The Price of Information, absolument génial, qui décrit le système, mais parfaitement, et qui finit l'article en disant Publisher needs scientists more than scientists needs publisher. Il continue en disant en gros que les géants au pied d'argile peuvent s'écrouler. Et la dernière phrase, c'est « Beware the academic spring ». Donc, ils nous ont fait une publicité. Nous, on avait vraiment on avait lancé ça à titre personnel. C'était plutôt nous-mêmes qui ne voulions plus du tout collaborer avec Elsevier en disant « on ne veut plus être envoyé d'article à Elsevier, ni référé pour Elsevier, ni être membre de comité éditorial ». Alors, dans mon cas, ce que j'ai fait, à titre personnel. Donc, dès 2012, j'ai arrêté toute collaboration avec Elsevier. Mais comme j'avais participé à la création d'un journal de maths en 1992 chez Academic Press, et comme Elsevier a racheté tout Academic Press en l'an 2000, on s'est retrouvé chez Elsevier, mais bon, sans le savoir pratiquement, parce qu'ils ne nous avertissent même pas quand ils vendent notre revue à un autre publisher. Hein, ça, on compte. Il faut savoir qu'on est des cash-cow, hein, nous les chercheurs, ils s'en fichent. Et quand on a découvert que les dysfonctionnements et qu'on a lancé ce boycott, là, dans mon cas, j'ai refusé de démissionner du comité éditorial, mais je suis en grève. C'est-à-dire j'ai refusé je ne fais plus mon travail depuis ce temps-là, mais il ne faut surtout pas quitter le comité éditorial parce qu'ils mettent quelqu'un d'autre, ils mettent quelqu'un à leur place. Il faut bloquer le système de l'intérieur et essayer de faire ce qu'on appelle l'émancipation des journaux, c'est-à-dire que si vous arrivez à convaincre tous les membres du comité éditorial, ce qui est très difficile, bien évidemment, c'est d'aller après chez un autre publisher. Mais vous perdez le titre de la revue, ce qui est très grave, parce que vous êtes obligé de lancer un nouveau journal avec un nouveau titre. Mais ça marchait avec plusieurs journaux, ça marchait avec Topology, ça marchait avec... Récemment, il y a un journal de linguistique comme ça. Il y a pas mal. Bon, il y a eu quelques cas comme ça qui ont réussi. Alors, qu'est-ce que les chercheurs proposent à la place? Parce que c'est bien gentil de critiquer le système, il faut proposer. Alors ça, c'était en 2012, l'année du boycott. C'était un peu par hasard, quand je dis par hasard, pas vraiment. Mais en tout cas, un soir, je reçois un coup de téléphone de c'est Jean-Pierre Bourguignon qui m'appelle en me disant que la nouvelle ministre qui était Geneviève Suraso, il venait juste d'être, juste après l'élection de François Hollande, elle devait rencontrer son homologue allemande, Annette Chavan, et à l'ordre du jour, il y avait les questions d'open access. Ils ne savaient pas au ministère qu'est-ce qu'il fallait dire, etc. Donc j'ai rédigé très vite une note pendant la nuit, puis je l'ai envoyée le lendemain matin, et je disais, il est indispensable que les chercheurs puissent développer une troisième voie. Alors, les deux voies, vous les connaissez, j'ai déjà parlé de la voie du gold. Et comme vous êtes chercheur, vous connaissez ce qu'on appelle la voie verte, qui est, en fait, quand vous mettez votre article sur Archive, c'est-à-dire vous déposez votre article, la version auteur, en accès public, mais c'est pas peer review, c'est-à-dire que quelque part, c'est la version... à titre personnel, ce que je fais, c'est que le même jour que j'envoie une revue, je mets sur Archive. Ça, pour moi, c'est la bonne pratique. Systématiquement, vous ne réfléchissez pas. Et l'avantage que vous avez, naturellement, c'est que vos collègues peuvent déjà vous donner du feedback sur l'article. Et puis, ça vous crée une date. C'est-à-dire que vous savez, vous pouvez faire la preuve que c'est déjà rendu public. Donc, c'est votre avantage. Et alors, la troisième voie qu'on propose, c'est la voie qu'on a appelée diamant. Elle est appelée diamant et se caractérise par le fait que ni le lecteur ni l'auteur ne doivent payer. Et le truc essentiel de la voie diamant, c'est que le journal n'appartient plus à la maison d'édition, au publisher, mais au comité éditorial qui fait tout le boulot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la force d'une revue ? C'est la qualité de son comité éditorial. Et le travail que fait le comité. Il ne suffit pas, comme la plupart des journaux, vous avez les noms des plus fameux chercheurs de votre domaine, mais le publisher ne leur demande jamais rien. C'est juste du marketing. C'est ça aussi un peu le problème avec PRL. C'est-à-dire qu'ils ont leurs éditeurs maison, et puis il y a les grosses têtes qui donnent leur nom. Alors, en pratique, je n'ai pas fini le cas de PRL, parce que c'est quand même un cas très intéressant. Quand vous l'envoyez à la revue, c'est fait par l'éditeur en résidence, mais quand vous faites appeal, c'est la première fois où c'est un éditeur qui est vraiment un membre dans la liste de ceux que vous voyez apparaître comme ça. Et voilà. Et là, ça se passe bien parce que quelque part, il comprend l'article, quoi. Ben, si l'article est bon, naturellement.
Pourquoi aller chercher les Américains ? Le compte rendu des sciences, la qualité des sciences. Il y a différentes parties, chimie, physique. Il y a Maurice Goldman, qui a la retraite depuis 10 ans, il est toujours dans le monde du comité de temps.
Il y a déjà une pratique qui est très simple, et vous allez voir dans l'idée qu'on a eue avec le Gold Open Access. Je fais un lapsus. Moi, je me suis couché très tard hier soir. L'idée qu'on a eue en faisant le Diamond pour s'opposer au Gold, c'était la chose suivante qui pour moi est absolument essentielle, c'est de remettre le peer reviewing au centre du système. Donc, un journal, c'est la qualité du comité éditorial et la qualité du peer reviewing qu'il fait. Parce que vous, chercheurs, je dis ça pour les jeunes, ça c'est important pour les jeunes, si vous envoyez à une revue très fameuse, mais dont le peer reviewing n'est pas sérieux parce qu'ils couvrent toutes les disciplines, vous courez le risque qu'il y ait un article qui passe avec des erreurs, avec des choses que vous regretterez plus tard. Quand vous envoyez un article à une revue, quelque part, c'est pas une histoire d'évaluation au sens compétition, c'est une histoire plutôt dans l'esprit collaboration. Il y a des collègues qui vont passer du temps à réfléchir à ce que vous dites et à vérifier les éventuelles erreurs ou les choses qui sont pas claires. L'idée du peer reviewing, c'est d'améliorer un article. Et moi, à titre personnel, quand je peer review, surtout si je refuse un article, je fais vraiment un très long rapport pour que au moins ça améliore l'article. Que la personne sache pourquoi, ben je considère que vraiment son article n'est pas prêt. Mais le peer reviewing est la colonne vertébrale, de mon point de vue, du système de revues académiques, mais il est dégradé parce qu'on a laissé des grosses boîtes commerciales essayer de produire un maximum. C'est très simple, le système commercial. Plus on produit d'articles, plus ils gagnent de l'argent. Donc il faut vite accélérer tout. Et accélérer la publication, ça veut dire réduire le temps de peer reviewing. Vous savez très bien qu'on vous pressurise. Et alors, une des choses, vous verrez ça sur mon site, si je le dis maintenant parce que j'ai oublié de le dire après, mais j'ai écrit en particulier un article qui s'appelle « Publishing and Peer Reviewing in Open Access » qu'on m'a demandé, qui a été publié par la Commission européenne. Et je suis aussi pour l'open peer reviewing parce que ça va être une façon de montrer le système de façon... On peut rester anonyme, hein, mais par contre, il faut voir les meilleurs rapports de peer reviewing, c'est super important. Et comme aujourd'hui, il n'y a plus le papier, c'est-à-dire tout est électronique, je propose même que quand on peer review un article, si votre rapport est particulièrement bon, il mérite publication avec l'article. C'est-à-dire qu'il soit le comité éditorial va décider de publier les meilleurs rapports de peer reviewing pour un article donné. Ça reste attaché à l'article. Et vous, vous êtes un jeune, vous avez fait un très bon travail pour la collectivité et ça, ça peut compter comme publication. D'accord, mais c'est nature. C'est parce que pourquoi ils le font, c'est parce qu'ils n'arrivent peut-être plus à avoir assez de choses sérieuses. Bon, je veux pas en parler en détail maintenant, mais le nombre d'articles faux qui sont publiés dans Nature, il y en a une liste énorme, et il y a eu des cas très graves. Il y a eu des cas, par exemple, avec cette fille japonaise, où le patron s'est suicidé. Je veux dire, et moi, il m'est arrivé de dire publiquement lors d'une conférence qui était en vidéo enregistrée que si j'avais été cette fille, je me serais retournée contre Nature pour ne pas avoir fait le peer reviewing de qualité qu'il est prétendu faire. Et là, on m'a coupé. Je veux dire, c'est la chose qu'il ne faut surtout pas dire donc, publiquement.
Ils m'ont demandé une deuxième fois si je compte, je confirmais.
Ils ont essayé de vous convaincre d'accepter.
Au final, l'article a été accepté. Mais j'ai collé les enfants qui m'ont dit, mais comment c'est plus passé ? Il y avait un bel article, mais c'était rien de nouveau. Si, il y avait Merck dedans.
Ben ouais, par exemple.
Merck. Mais une publicité dans la nature.
Je peux vous dire plus en détail. La fois où j'avais parlé de cet article de cette fille japonaise de Riken qui avait été dans l'article avait été déclarée faux et après il y a eu tout un scandale. Non, mais attendez, je continue ça. Après il y a quelqu'un qui est venu me trouver qui elle-même avait participé à l'enquête suite à ce problème et en fait l'éditeur, le fameux éditeur en résidence, n'avait même pas envoyé de peer reviewer l'article parce qu'il voulait faire le buzz, le premier. C'était sur les cellules souches, il y avait vraiment une sorte d'enjeu comme ça, prix Nobel si ça marchait, etc. Donc ils avaient pris la responsabilité eux-mêmes. Et ça, je suis désolée, c'est nous chercheurs qui devons exiger la qualité du peer reviewing parce que c'est vraiment ce qui sécurise la qualité des articles qu'on va utiliser après. On est dans un système qui est de qualité académique. C'est pas commercial. Bon, donc, l'idée de base de notre système, c'est... Oui, j'avais pas fini le raisonnement là-dessus. C'est que si on remet le peer reviewing au centre, un journal, la qualité d'un journal, c'est la qualité de son comité éditorial. Il faut que le comité éditorial possède le titre de la revue. Ce qui permet, à ce moment-là, c'est au comité éditorial de choisir quel publisher il veut. C'est-à-dire, et à ce moment-là, on met les publishers en concurrence. Et on va même encore plus les mettre en concurrence, parce que maintenant, la chose que je pousse, c'est que les institutions qui financent la recherche financent directement les plateformes de publication dont on a besoin. Typiquement, Elsevier a une plateforme que vous connaissez certainement, qui publie 2200 à peu près revues, Science Direct, mais c'est la même plateforme. Il y a la même plateforme pour le peer reviewing, qui s'appelle eVise. Ils traitent les 2200 revues, quelles que soient les spécialités, de la même façon. C'est une grosse machinerie qui tourne, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, en tout cas, qu'elle soit privatisée et que toutes les données qui tournent sur ces plateformes soient privatisées. Alors que si on fait une plateforme publique, on peut faire les mêmes outils, le même travail de peer reviewing, mais avec une qualité qui reste de type académique. En tout cas, c'est ce qu'on propose. Et le gros avantage de ça, c'est que pour la première fois, je vous en présenter une après de plateforme comme ça. Ça permet aussi que les comités éditoriaux vont candidater pour la plateforme qui, elle, sera gratuite, au sens le journal n'aura pas à payer pour être publié, dans la mesure où ça sera comme un centre de calcul. Quand vous avez besoin de temps de calcul, aujourd'hui, on ne paye pas. Mais vous êtes mis en concurrence avec toutes les autres personnes qui ont besoin de temps de calcul. Et ça permet de ne... Dans ce cas-là, ça permettra de publier que les bonnes revues, celles qui ont un comité éditorial sérieux. Et là, je réponds à l'objection là tout à l'heure, avec des statuts sérieux du genre, tous les 3 ans, on revoit la liste des membres du comité éditorial. Ils ne sont pas là pour... ad vitam aeternam, c'est-à-dire faut remettre de la qualité en particulier dans le peer reviewing. Alors, bon, les abus des publishers, je vais aller très vite. Là, je saute parce qu'on pourra y revenir après. C'est-à-dire vraiment les abus, c'est, je vous le dis quand même, en pratique, vous devez faire très attention à ça, c'est que quand vous signez un copyright transfert form, vous lisez tout. Et, Et là, il y a vraiment des abus gravissimes. Dans le genre, je vous montre rapidement, par exemple, ça c'est le dernier article paru. Ça, malheureusement, c'est un publisher qu'on devrait bien aimer, Cambridge University Press, mais ils ont inventé ce nouveau truc qui est complètement fou, qui dit que si toute formule qu'on trouve dans votre article, algorithme, etc., est appliquée exactement, et si ça nuit à quelqu'un, c'est vous l'auteur qui êtes responsable. Et vous devez indemniser Cambridge University Press, etc. Je mettrai peut-être les slides sur un site web, vous pourrez lire ça en détail. Donc ça, c'est scandaleux. Donc j'ai refusé d'accepter ça. Et exceptionnellement, ce que je n'avais jamais fait avant, je me suis dit, bon, dans ce cas-là, j'accepte que l'article soit en open access. Open access, comme c'est du gold, il faut que je paye des article processing charges. C'est-à-dire, je paye pour payer. Ils m'ont demandé 2200 euros pour un journal qui est par abonnement. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'abonnement et en plus 2200 euros. D'accord ? Ensuite, une fois que l'article... Alors, vous avez vu, je leur ai donné à titre non exclusif et j'ai enlevé tout ça. Eh bien, quand l'article est paru, ça ne les a pas inquiétés. Ils ont pris le Cambridge University Press copyright, alors que je ne leur ai pas donné le copyright. Donc après, j'ai protesté. Et là, je suis assez... C'est vraiment très, très vexant. Ils ont fait paraître un erratum où ils s'excusent, où ils nous rendent le copyright, où ils reconnaissent, où ils apologize to the author. Simplement, quand vous faites Google Scholar, vous avez notre article. Et puis ma nouvelle publication, la dernière, c'est l'erratum. Et je leur avais dit, je leur avais envoyé un mail en disant, vous mettez erratum de copyright. Pas... Voilà. Donc, voilà. Je redis, il faut reprendre le contrôle, sinon on est toujours perdant. Alors, la publication, je reviens au modèle Diamond. Donc, les journaux appartiennent au comité éditorial. Un truc très important, c'est que les auteurs gardent leurs droits d'auteur. Ils n'ont pas à donner. Là par exemple, où Cambridge University Press abuse, c'est que, alors que c'est du gold, normalement, le gold, tout le gold est publié, doit être publié en CC BY. Qui ne connaît pas les Creative Commons License? Ah, bon, alors, bon, ce n'était pas prévu, je vous fais un petit truc comme ça. Alors, on va faire du droit. Quand vous publiez quelque chose, a priori, quand vous écrivez un article, que vous le rendez public, ou même que vous le mettez sur un site web, vous le mettez sur votre site web, les droits vous appartiennent. Ça veut dire que si vous avez trouvé un article sur un site web, vous n'avez pas le droit de le rediffuser vous-même sans l'autorisation de l'auteur, parce que ça appartient à l'auteur. Donc, les maisons d'édition, pour rendre possible la publication, nous demandent dans le système traditionnel de leur donner notre copyright, ce qu'on n'avait jamais refusé dans le passé, parce qu'on avait le service qui allait avec derrière l'imprimerie, la diffusion, et votre article était disponible dans toutes les bibliothèques, les bonnes bibliothèques. Okay. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, alors justement, c'est ça le problème. Ils continuent à garder le vieux système où on est obligé de leur donner le copyright, alors qu'il n'y a plus aucune raison de leur donner le copyright. Il faut que l'auteur garde son copyright et utilise ce qu'on appelle une licence Creative Commons, où c'est vous, l'auteur, qui dites « Mais moi, j'autorise tout le monde à publier mon article. » Parce que l'intérêt de l'auteur, c'est que votre article soit le plus largement disponible. Alors, CC BY, la seule condition à ce que quelqu'un republie, utilise mon article, c'est qu'il me cite. Et c'est d'autant plus important scientifiquement, parce que s'il y a une erreur dans l'article, il faut pouvoir quand même revenir... Il y a quelqu'un qui a pris la responsabilité, c'est l'auteur. Voilà. Mais il y a absolument, donc il y a toute une série de licences. Vous pouvez rajouter d'autres conditions, mais moi je ne le recommande pas. Vous pouvez mettre une condition non-commercial, c'est-à-dire que vous êtes d'accord pour que quelqu'un utilise votre article, mais pas à des fins commerciales. Vous pouvez, je ne rentre pas dans plus de détails la technique, mais on pourra pour la discussion si vous voulez après. Moi je considère qu'on est des chercheurs payés sur de l'argent public. Donc, tout le monde a le droit d'utiliser notre travail, même en faisant de l'argent avec, par le fait que même une entreprise a payé ses impôts, donc ils ont payé aussi mon travail. Voilà. Il faut diffuser le plus largement nos idées. Par contre, l'attribution est importante pour des raisons de paternité et aussi de pouvoir remonter à la source de qui est à l'origine de ce travail. Voilà. Donc, quand on est en Diamond Open Access, tous les articles sont... L'auteur garde son copyright et il donne l'autorisation après de le publier. Mais il le donne de façon non exclusive, c'est ça la différence.
parce que dans les projets européens versés et maintenant les ALENA,
oui, non, mais ça,
c'est une condamnation d'argent pour le plus public,
oui,
publication open access. Ou peut-être que les Européens paient des impôts, donc n'importe quel citoyen doit avoir accès.
C'est exactement ça. Le mouvement, en fait, tout ce mouvement d'open access a démarré il y a très longtemps. Il a démarré autour des années 2002, 2003, et était parce que aux États-Unis, il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est que le citoyen a énormément d'importance, justement en tant que taxpayer, en tant que citoyen. Donc, il y a eu déjà dès les années 2005-2006 la NIH, National Institute for Health, qui exigeait que les articles soient accessibles. Mais ça, c'est vraiment lié à la Constitution américaine. Donc, il y a eu un bon mouvement, d'où après la lutte qu'ont menée, le lobbying qu'ont mené les publishers pour arrêter les bills de la NIH et faire leurs bills à eux pour essayer de hacker le système, de contrôler le système. Et maintenant, au niveau européen, on s'est réveillé un petit peu plus tard, mais maintenant, c'est acquis. Et puis, par exemple, dans l'avis au comité d'éthique que j'avais écrit, pour moi, il y a un principe de base extrêmement simple. C'est que les institutions qui financent la recherche, la recherche, elle ne peut être financée pratiquement que sur de l'argent public. Même aux États-Unis, une université privée, le financement de la recherche, c'est public parce que c'est risqué. Et puis, ça a échéance de 30 ans ou de plus. Ce n'est pas de l'argent privé qui va permettre de faire de la recherche fondamentale de bonne qualité, etc. Donc, tout le système, en fait, repose sur du financement public. Et on est quand même un peu débile quand on a investi autant d'argent pour produire les résultats de la recherche, pour payer les chercheurs qui écrivent, qui font le peer reviewing, etc., que la fin de la chaîne, qui consiste simplement à publier l'article, c'est-à-dire le rendre accessible par tout le monde, soit privatisée. C'est-à-dire que, je vais vous poser une question. Quand vous signez un copyright transfer form, là, le truc que j'ai refusé de signer, moi, j'ai tout barré. Et pendant combien de temps vous leur donnez, pendant combien de temps ils possèdent votre travail, votre article ? C'est-à-dire quand vous signez ça. Ah, vous n'avez pas d'idée ? Non, c'est pas. Bah non, ça, tout le temps, ça veut dire pendant votre vie ou c'est éternel de toute éternité ? C'est... Bon, alors précisément, c'est 70 ans après la mort du dernier co-auteur à mourir. Ça veut dire qu'il y a plus de 100 ans de recherche qui est bloqué, privatisé. Et pire que ça. Quand vous lisez, là, je suis passée trop vite parce que je croyais que vous étiez vraiment au courant, mais si vous lisez en détail, il y avait écrit qu'on leur donne le texte, mais on leur donne les figures, on leur donne tous les matériels supplémentaires qui nous demandent de mettre sur le site web. Ils peuvent vous demander de mettre le code, hein. ils vous demandent de mettre vos données, ils vous demandent tout ça, ça leur appartient. C'est fini. C'est plus à vous. Et plus à vous, ça veut dire que vous voulez écrire un livre. Vous voulez récupérer une figure, vous êtes obligé de leur demander l'autorisation, ils peuvent vous demander de l'argent, etc. Et puis comme l'éditeur qui va publier votre livre, il n'a pas du tout envie, il veut que le système se maintienne, il va vous embêter jusqu'à ce que vous ayez la preuve que l'autre éditeur a bien accepté que vous republiez cette
livre. Pour récupérer des figures d'un article déjà publié, où je suis auteur dans un livre...
Non, mais c'est votre figure surtout, c'est vous qui l'avez produite, elle n'est plus à vous. Techniquement, elle n'est plus à vous.
Sur les grandes plateformes, genre CS, il y a un principe pour demander les copyrights. En fait, c'est gratuit.
Bah, disons, le fait qu'ils ne vous appartiennent plus, c'est de toute façon... Attendez, on vous fait la charité. C'est-à-dire, il faut négocier. Vous avez, pour l'instant, c'est gratuit. Mais à partir du moment où légalement, c'est eux qui le possèdent, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. C'est quand même humiliant. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, écoutez, si vous avez envie de passer du temps de chercheur à faire des trucs comme ça, bon, moi je suis un peu plus radical sur le fait qu'on ne peut plus faire confiance au système tel qu'il est. Et le principe, et je vais arriver si j'arrive à la fin, parce que j'ai quelques doutes, le principe, c'est que aujourd'hui, les agences de moyens ont compris, donc Bruxelles et d'autres naturellement, qu'il faut que la publication soit sous contrôle des chercheurs et des institutions de recherche. Donc, c'est pour ça qu'ils nous forcent pour l'open access. Mais à cause du lobbying des publishers, ils vont quand même tous vers le gold, qui n'est pas une bonne solution. Je continue. Donc, la bonne solution qu'on propose, c'est que les institutions publiques, elles ne nous donnent pas de l'argent pour faire la publication, parce que cet argent, il va aller dans la poche des publishers qui vont demander ce qu'ils veulent. c'est eux qui peuvent demander les 2200 pour une revue qui est par abonnement, c'est quand même un petit peu cher. Non, ce qu'il faut, c'est qu'ils nous fournissent le service, l'infrastructure de publication. Et c'est pas grand-chose, c'est quelque chose qui peut être à très grande échelle, qui peut être partagé par un grand nombre de journaux, etc. Et l'intérêt de ça, comme je l'ai déjà dit, ça créera un feedback où on aura un comité scientifique qui évalue les articles, la qualité des journaux. Bon, alors, des plateformes comme ça existent déjà au Brésil, Cielo, financé de public, je ne rentre pas en détail. Pour les sciences humaines et sociales, il y a revue.org en France qui existe depuis 1999, qui est très bien. Et donc, des revues, alors, des journaux en Diamond Open Access, il y en a en fait, il y en a un très, très grand nombre dans le monde. Il y en a plus de 10 000. Mais, en fait, le principe, une chose aussi que je ne vous ai pas dite, c'est que, une chose qui est aussi importante quand on va faire la plateforme de publication, il faut que le logiciel de la plateforme soit en open source lui-même. Parce que si la plateforme elle-même a de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que le logiciel est un produit commercial, ça va être racheté un jour par Elsevier. Elle, vous le savez très bien, Elsevier a racheté Mendeley, vous connaissez Mendeley, a racheté Pure. Dès qu'il y a un truc bien qui marche, qui est adopté par les chercheurs, ils ont tellement d'argent qu'ils rachètent. Donc l'astuce, c'est qu'il faut que tout soit open source. Et les journaux, quand je dis qu'il y a à peu près 10 000 journaux qui sont déjà en Diamond Open Access, c'est des petites revues dans des disciplines très à petite échelle, si vous voulez, qui utilisent un logiciel très très bien qui s'appelle OJS, Open Journal System. C'est-à-dire avec ce logiciel, vous pouvez faire un comité éditorial, un département d'université peut faire sa revue et la gérer elle-même. Et c'est le cas de cette revue que moi j'aime bien, qui s'appelle IPOL, Image Processing Online, qui a été fondée en 2010, qui est gérée donc par Jean-Michel Morel, qui est à Cachan. Bon, ça va venir sur le plateau. Là. C'est à l'école normale de Cachan. Et c'est une revue tout à fait remarquable, parce que, alors, tout est financé par de l'argent public. Et ce que j'aime beaucoup dans cette revue, c'est qu'ils font le peer reviewing du texte, mais aussi de l'algorithme, et il faut aussi fournir le code source, tout est peer reviewé. Le code source reste sur la plateforme de la revue, et les lecteurs peuvent eux-mêmes. Alors, les données qui ont été utilisées pour produire l'article sont accessibles, ouvertes. Le code est accessible, ouvert. Et si vous voulez vous-même tester vos propres images données, si l'article propose par exemple un nouvel algorithme de compression et vous voulez voir s'il marche bien pour vos propres images, vous allez sur le site de la revue et vous testez vous-même avec vos propres données. Donc c'est très innovant. L'idée, c'est que maintenant qu'on est dans l'électronique, on peut être très très innovant. Mais il y a une condition, il faut que tout ça soit public et reste public. Et pour ça, il faut que ça n'ait pas de valeur de propriété intellectuelle, sinon quelqu'un, du moins un groupe qui veut faire de l'argent va le racheter. Et c'est pour ça que IPOL est écrit en Open Journal System. Et quand c'est open source, ça veut dire que n'importe qui peut le recopier. Il y a des utilitaires, des softwares qui peuvent être utilisés par un autre journal pour faire un travail équivalent. Alors, voilà. Il y a une plateforme qui a été créée cette année. Au départ, on l'a fait pour les maths, mais on est en train de l'agrandir à autre chose, à d'autres disciplines. Donc, ça a été créé au 1er janvier de l'année dernière. Ça s'appelle le Centre Mersenne. C'est les matheux du CNRS et l'INSMI. Je suis à l'INSMI, les maths. Et on a décidé, dans le cadre de quelque chose qu'on appelle la cellule MathDoc, de créer cette plateforme, donc, qui est financée par le CNRS et l'Université de Grenoble, où donc c'est du Diamond Open Access, et on a un comité scientifique, dont je fais partie, qui évalue, donc les comités éditoriaux nous disent, voilà, soit je veux créer une nouvelle revue, et est-ce que je pourrais la publier grâce à votre plateforme, ou j'ai une revue, et on a envie de changer. Et donc, je vous montrerai les revues qu'on a pour l'instant. Alors, le comité scientifique, il vérifie que le peer reviewing est de qualité, c'est-à-dire on se renseigne sur qui sont les membres du comité, quels sont s'ils sont reconnus par la communauté, mais on vérifie aussi les statuts, c'est-à-dire on vérifie comment on choisit les éditeurs et pendant combien de temps ils sont en charge. Il faut des règles du jeu. Et alors, on va leur faire, on va dire, OK, pendant 4 ans, vous pouvez publier gratuitement sur cette plateforme, mais dans 4 ans, on revoit votre copie et vous nous montrez aussi comment vous avez fait le peer reviewing. L'idée, c'est qu'on ouvre la boîte. On a des critères du genre, s'il y a qu'un seul rapport de référé, c'est pas suffisant. Il faut arriver à améliorer et à aussi un peu suivre, essayer d'évaluer aussi la qualité du peer reviewing et l'évaluer à l'avance comme ça, ce qui permet le journal, ce qu'il gagne, il gagne la publication gratuite, c'est-à-dire qu'il n'a pas de frais de publication parce que c'est pris en charge par l'instance qui finance. En ce cas-là, le CNRS et l'Université de Grenoble. Donc, qualité du peer reviewing, le service public est donc non lucratif. Ah oui, une chose très, très importante, c'est que l'archivage doit être pérenne. Parce que là, avec l'édition électronique, qu'est-ce qu'on fait dans 50 ans, hein ? Il y a du souci à se faire. Et comme en plus, c'est des boîtes financières qui sont derrière les très gros publishers, le jour où ça rapporte plus 40%, ils vont nous laisser tomber en plein vol. Hein. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, il faut s'attendre quand même à des dégâts le jour où Elsevier a décidé que finalement, c'est plus assez rentable, on va passer à autre chose. Je dis ça, c'est-à-dire que le côté pérennité des ouvrages, c'est très important. S'il y a un État derrière avec une bibliothèque nationale, avec des archives nationales, avec vraiment une tradition de sauvegarde, d'accord. Mais un publisher, quand le vent tournera, je pense qu'on aura du souci à se faire. Bon, et l'autre avantage aussi d'avoir une plateforme comme ça, gérée par une instance publique, et c'est qu'on pourra enfin évaluer vraiment que coûte la publication électronique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous payez des articles processing charge, je vous ai dit que moi j'ai payé 2 200 €, mais ça va jusqu'à 10 000. Hein. Ça peut, il y a des revues, ils vont à 5 000, 10 000. Et puis, il y a un truc très simple à comprendre. Les publishers, ils ont hacké tout le système. C'est-à-dire, les gros, hein, quand je dis les publishers, c'est les 4 en gros que je vous ai montré. C'est les plus gros en nombre de journaux, nombre d'articles, etc. Et les autres, de toute façon, ils sont en compétition avec ceux-là. Donc, ils sont entraînés par jouer le même jeu. Donc, le système aujourd'hui, c'est un contrôle vertical. Par exemple, Elsevier possède, comme je l'ai déjà dit, la plateforme eVise qui se charge, entre guillemets, du peer reviewing. Ensuite, la plateforme, alors là, c'est gratuit. Hein. Du moins, en tant que, les éditeurs n'ont pas à payer pour, ni les auteurs, mais par contre, ils se payent avec toutes les données qu'ils collectent sur le travail scientifique. Ensuite, au-dessus, et oui, une autre chose aussi, qui est grave de mon point de vue, c'est que les rapports de référés leur appartiennent légalement. Et ça, c'est grave pour l'histoire des sciences. On n'a aucune idée de ce qu'ils font des rapports de référés. Ils sont perdus hein, pour l'histoire des sciences. Où partent les rapports de référés ? Surtout que c'est sur une plateforme. Donc, voilà. Alors, ensuite, le niveau au-dessus, ils ont la plateforme Science Direct, où là, ils publient leurs 2200 journaux qui vous vendent par abonnement. La plupart, ceux qui ne sont pas encore en open access, avec les techniques de bundling, la France paye quand même 175 millions pour l'abonnement à Elsevier pendant les 4 dernières années. Le précédent, ce n'est pas un petit budget pour la recherche. Ensuite, au-dessus, ils ont la plateforme Scopus, qui, avec leurs propres données qu'ils ont collectées, tout ça, font la bibliométrie. Mais on ne connaît pas leurs algorithmes, on ne connaît pas les données avec lesquelles ils font la bibliométrie. Et c'est de là que vous allez sortir les fameux classements de Journal Impact Factor, l'impact des journaux. Mais c'est quand même Elsevier qui contrôle tout ça, qui décide quels sont les journaux qu'on va mettre dans le circuit bibliométrie. Et au-dessus, encore mieux, ils ont une autre plateforme. Et alors, actuellement, les bibliothèques payent très cher le service Scopus. Et ils ont une plateforme au-dessus qui s'appelle SciVal, qui aide nos managers à faire l'évaluation de leur laboratoire pour savoir si votre département est en train de monter par rapport à des statistiques internationales, quelque chose comme ça. Et tout ça, c'est payant. Donc, il y a un business vertical très important, mais surtout, regardez, ils contrôlent toutes nos carrières. Ils contrôlent nos évaluations quand on fait des demandes de financement. Ils contrôlent... de mon point de vue, il y a du souci à se faire. Et alors, le truc auquel je veux en venir, j'ai vu votre question, c'est que aujourd'hui, comment calculer les articles processing charge que vous avez à payer ? Je ne sais pas, Nature, moi je ne soumets jamais à Nature, donc quand vous payez dans Nature, ça coûte combien ? Est-ce que quelqu'un le sait ? 4 000, 5 000 ? Ah oui, non, bah justement. C'est à ça que j'allais arriver. Regardez bien là, l'équation, elle est super simple, l'équation. Donc, Nature, comme ça couvre beaucoup de disciplines, ça a un impact facteur très élevé, automatiquement. Ça doit être 30 ou je ne sais pas combien. Bref, c'est plus haut. Okay. Alors, qui dit revue à impact facteur très, très élevé, vous êtes tellement content d'avoir votre article accepté dans Nature que vous êtes prêt à payer n'importe quoi. Donc, ça veut dire APC, ça diverge presque. Alors, il n'y aura pas beaucoup d'articles parce que quand même, justement, ils en retiennent que, je ne sais plus, genre 10%, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça coûtera très cher. Alors, après, ils ont un système qui est génial, que vous connaissez probablement, c'est la notion de cascading journal. Donc, Nature a plein d'autres journaux de valeur un petit peu moindre. Alors, pour le premier, combien de fonds de rapports de référé? Les articles que vous avez eu dans Nature, il y a eu combien de rapports? Bon, 3, c'est bien. Pour moi, 3, c'est une bonne norme. OK. Bon, 3, c'est correct, on va dire. Bon, il faut voir comment c'est fait, mais c'est correct. Eux, ils ont combien de lignes? Ils ont 3 pages ou ils ont 2 lignes? Comment?
Ça peut être sérieux.
Bon, tant mieux. Bonne nouvelle. Bon, alors, donc, on a ces articles qui sont publiés avec des articles processing charge très élevés, mais le nombre est assez petit. Et ils ont récupéré, grâce au peer reviewing, 3 rapports de référé. On ne va pas perdre de temps à redemander des rapports de référé. Donc, votre article est refusé, avec les 3 rapports de référé. On dit non, c'est pas assez bon pour Nature. Mais vous pouvez aller à Nature, je sais comment ils s'appellent les autres, Nature Review, je ne sais pas quoi. Parce que moi, je veux. Voilà. Disons, après, vous descendez. Alors, le principe du cascading. Well, no, in principle, the APCs should decrease because, okay, the overall, en français, le principe c'est que tout article doit être publié parce que ça rapporte de l'argent. C'est simple. Il faut tout publier. Mais on va cascader comme ça les revues entre guillemets fameuses. Et puis moins fameuse, ah, toujours avec les mêmes rapports de référé. Donc à la fin, il y aura beaucoup plus d'articles, parce que les revues moins bonnes, elles vont prendre plus d'articles. Mais j'espère que les APC sont réduites à ce moment-là. Un petit peu. Bon, maintenant, imaginez le business et le fric qu'il y a derrière. Et tout ça pour 3 rapports de référé. Voilà. C'est-à-dire parce que après, on perdrait du temps à en faire d'autres. C'est vraiment, vraiment pas sérieux. C'est un système grave. Et PRL fait la même chose. Hein. PRE. Bon, PRL, on s'amuse nous à l'appeler Physics Review Lottery, et PRE, c'est la poubelle, quoi. C'est quand ça a été refusé à PRL, ça va à PRE. Ah, mais ça va automatiquement à PRE avec les mêmes rapports de référence, c'est bon. Voilà. Donc, ce système, moi, personnellement, j'en suis un peu dégoûtée. C'est-à-dire, je ne fais plus confiance. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, ce que j'ai proposé quand j'étais conseillère de Moïdas, je peux même vous montrer, tenez, je n'avais pas prévu de. C'est vraiment le truc que j'ai mis à la fin, parce que j'avais mis en au cas où on en discute, mais je vais quand même vous le montrer. Parce que je vois que ça c'est un sujet qui vous intéresse, vu qu'on a parlé de Nature. Donc, un jour, c'était, je ne sais plus, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, peut-être 2017, je ne sais plus. En tous les cas, avant la foire de Francfort, la grande foire du livre de Francfort, Moïdas, on avait une réunion avec lui, il nous dit, écoutez, moi, je sais que je vais rencontrer les publishers, ils nous demandaient rendez-vous, etc. Je ne sais pas très bien quoi dire, dites-nous, qu'est-ce que vous me conseillez? Et pendant la réunion, j'ai fait ce schéma. Alors, ce schéma, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des publications classées par niveau de spécialisation. Là, c'est hyper spécialisé. Et là, c'est très, très, très peu spécialisé. Vous n'avez pas. C'est de plus en plus généraliste. Et là, bon, c'est les différentes disciplines, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des variations entre disciplines. Hein. C'est simple, il faut en tenir compte. Nous, en physique, on est à peu près, maths, on est à peu près sur. On a des méthodes qui ne sont pas les mêmes chez les biologistes ou chez les économistes. Donc là, c'est le niveau hyper spécialiste. Là, c'est le niveau généraliste. Par exemple, Nature va se retrouver là, va se retrouver couvrant un grand nombre de disciplines, mais de façon. Donc l'idée, c'est que le message pour Moeda, c'est qu'ils disent aux publishers, vous n'avez plus le droit à toucher au niveau des journaux à comité de lecture, qui eux doivent être. Qui sont financés par l'argent public et qui doivent rester dans le cadre d'un commun, un bien commun de la connaissance. Et le peer review doit être fait par les chercheurs eux-mêmes au niveau le plus spécialisé. C'est pas grave d'avoir énormément de revues, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi changer la terminologie, la notion de revue, de journal. Le journal, il y a le mot jour, c'est un truc qui paraît tous les jours, je sais pas quoi, c'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, tout ça, ça veut dire un comité éditorial derrière, le spécialiste de tel sujet, etc. Et vous avez un article dans ce domaine, vous l'envoyez ici. Vous avez un article sur une technique un peu différente, vous l'envoyez là. C'est vous qui l'envoyez, où vous êtes sûr d'avoir la qualité du peer review. C'est votre garantie. Voilà. Et ça doit rester domaine public. Mais par contre, je ne suis absolument pas opposée, au contraire, aux revues, on va dire, des revues qui font de la veille scientifique. Parce que l'intérêt des éditeurs de Nature, c'est qu'au moins ils ont une thèse. Moi, je les ai rencontrés, on vous rencontre assez. Un jour, j'ai réalisé, quand vous êtes à Trinity College, à la Haïti Ball, vous êtes dragué par des gens mais très très jeunes, hein, vraiment genre 30 ans, qui sont éditeurs de Applied Physics pour Nature. Bon, et puis vous discutez avec eux, ils ont une thèse et tout, et puis ils sont travaillés directement dans l'édition. Ce n'est pas des chercheurs, ils n'ont pas une culture de chercheurs. Et donc, là, ça m'a éveillé à ce problème, mais au moins ils savent lire les articles scientifiques, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est eux qui sont en charge de pouvoir dire « Ah, mais il y a une nouvelle idée importante dans ce domaine qui pourrait peut-être intéresser ce domaine. Il y aurait peut-être une nouvelle technique ici qui peut intéresser l'industrie. » Donc, il faut les garder simplement. Et là, ça reste complètement commercial parce que c'est eux qui investissent l'argent. C'est eux. Alors, le problème, et il faut aussi développer ce qui manque beaucoup, c'est les sciences médias for citizen. Les revues de vulgarisation scientifique, à mon avis, il n'y en a pas assez. Ça devrait être un domaine beaucoup plus développé. Mais ça, tout ça, c'est la responsabilité des publishers et c'est commercial parce qu'il y a de l'argent à se faire, il y a le grand public derrière, il y a l'industrie derrière. Il faut savoir que l'industrie, à cause du fait que les abonnements coûtent si cher, ils ne peuvent pas se payer. Même les très grosses entreprises, elles n'ont pas accès aux revues. Hein. C'est pour ça qu'ils font des collaborations avec les universités, ça leur donne accès aussi à la bibliographie. Voilà, donc le message était de dire il faut développer Science Media for Professionals et Science Media for Citizens. Il faut leur dire à Elsevier, on va vous empêcher d'aller là, mais par contre, développez ça. Simplement, ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils feront 10 à 20% de profit, ils ne feront pas 40% de profit. Il faut les forcer à y aller. Et ça, Moedas. Bon, Moedas, il vient de Goldman Sachs. Hein. C'est-à-dire, quand il a vu 40% de... Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, on espère qu'il n'y retournera pas après, comme d'autres, comme Barroso, mais bon. En tous les cas, au moins, la seule bonne chose, c'est que quand il voit 40% de profit, il dit oligopole, il faut que je casse ça. Donc, la politique actuellement à Bruxelles est quand même d'essayer de faire bouger quelques lignes. Je dis pas du tout que c'est ça, hein. Pour la petite histoire, au bout d'un an, j'ai démissionné parce que j'ai mis en évidence un lobbying d'Elsevier et d'autres d'ailleurs, mais plus que profond. C'est-à-dire qu'on était instrumentalisés de façon, sans le savoir naturellement, mais on était dans le groupe, on était 6, on n'était que 2 chercheurs vraiment qui continuent à publier. Et on a vu qu'on... Ben les autres, c'était les politiques. Ouais, bref, je ferme. J'ai démissionné. Et en disant, j'ai dit ce que j'avais à dire et je n'ai pas de temps à perdre de plus avec ça. Mais voilà. Alors, on va essayer de revoir vite.
En étant à l'extérieur du système, on peut parler de la
notification. Non, si, non. Nous, non, on n'est pas, je vais vous dire, non, ça, moi, je suis absolument convaincue que personne ne peut rien faire. Moi, ce genre d'entreprise comme les grosses boîtes d'édition, ils ne peuvent rien faire sans les chercheurs. Mais leur stratégie est très simple, c'est qu'il faut maintenir les chercheurs ignorants du système. Il faut les maintenir comme des gentils moutons qui... Voilà. Pardon, vous avez une question.
C'est sur le rôle de l'évaluation des indicateurs économiques et de la page d'un facteur, qui est, lui, dans la mise en place dans le blocage actuel, on pourrait se dire, le CNRS décide, c'est que ces chercheurs publient dans quelque chose que le CNRS contrôle, et après, les gens disent, je peux publier là-dedans, jugez-moi sur la qualité. Et le système tient à cause de ces indicateurs. Ce qui a été à l'origine un petit peu de cette modulation, elle peut sembler tout à fait naturel du côté des pouvoirs publics. Il y a une prolifération des disciplines et des publications, donc on n'y voit pas clair, et on essaie de mettre des indicateurs économiques.
Les bibliothécaires qui sont dans cette salle connaissent très très bien le problème. Le journal Impact Factor a été créé à l'origine pour des très très bonnes raisons. Ça a été créé il y a peut-être 30 ans, au moins, parce que les bibliothécaires. avait un budget fini, et elle voulait essayer de voir quelles sont les revues qui sont plus intéressantes pour les chercheurs. À l'origine, c'était fait pour les bibliothécaires, comme pour essayer d'orienter au mieux par rapport aux besoins des chercheurs, d'accord ? Parce qu'elle était obligée de faire des choix. Et puis après, ça a été justement récupéré par les publishers, parce que c'est quand même bien d'avoir le contrôle de ça. Et maintenant, c'est un outil de concurrence entre eux, de concurrence
dangereuse. Le vocal, maintenant, ça joue dans le classement de Schengen, par exemple. Donc, ici, en France, par exemple, si quelqu'un dit, bon, ben, je pense que mes chercheurs ont pu publier dans Nature, CBI, etc., la conséquence, c'est que je vais baisser à moyen terme.
Si vous me permettez, de mon point de vue, le classement de Shanghai procède de exactement les mêmes idioties.
C'est la même chose. C'est pas la question, c'est les politiques qui sont sensibles.
Attendez, regardez. Moi, je pense que les politiques vont quand même être très sensibles le jour où les chercheurs disent « C'est dommage, j'ai plus d'idées. » Parce que c'est ça qui va... C'est nous qui avons la main. C'est nous qui avons la main. Là, on nous oblige à passer notre temps à faire des trucs pour leur faire plaisir. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que l'idée là, je vais vous dire ce qu'on propose, et quand même, ça, je pense que tout ça, c'est fait que par des chercheurs pour des chercheurs. Donc là, il y a derrière un financement CNRS, mais très léger, et le financement, c'est l'INSMI, ça veut dire que c'est des chercheurs de l'INSMI qui disent qu'on prend une partie de notre budget pour faire la plateforme Mersenne. Mais je vais vous donner une autre... Alors voilà, la meilleure solution en attendant mieux. C'est parce que une chose par rapport à ce que vous donnez, que le CNRS aurait sa propre plateforme, on dirait que vous pouvez tous publier par le CNRS. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. La liberté académique est essentielle. Donc, je veux garder la possibilité de publier dans les revues où je sais que, j'ai plus le diagramme là, mais où je sais que ce comité éditorial est de qualité, etc., et cette revue, elle peut être vraiment à l'étranger, elle peut être... Je n'ai pas du tout envie que le CNRS commence en plus à contrôler le peer reviewing. Ça serait mal barré, là, je pense. Donc, je reprends ce point. On garde la liberté académique. Et aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir les plateformes comme Archive qui nous permettent, on va dire aussi, qui nous permettent de mettre notre version auteur publique. Alors, ça pourrait être mieux. Moi, personnellement, à titre personnel, depuis que j'ai fait un site web à la fin des années 90, je mets systématiquement la version publiée de mon article sur le site web, sur mon site web. Pourquoi ? Parce que la version publiée, c'est la version off record, et quand vous les citez un article, c'est quand même bien qu'on cite la bonne ligne, on cite la bonne numéro de figure, on cite... Pour des raisons scientifiques, c'est un peu embêtant d'avoir plusieurs versions en circulation. Donc moi, personnellement, c'est la version publiée, qu'on appelle version off record, qui est la bonne. Simplement, c'est illégal, vu que j'ai donné mes droits. Alors,
l'APS, par exemple, vous autorisez.
Oui, l'APS autorise, et encore, il faut bien lire en détail. Attention, oulala, c'est plus, légèrement plus compliqué. En principe, ils autorisent de mettre la version publiée. Mais c'est un petit peu plus, légèrement plus compliqué. Donc, je mets ça sur mon site. Mais quand vous mettez vos articles sur votre site, ça n'a aucune valeur d'open access. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas pérenne, votre site. C'est vous qui le maintenez, un jour vous disparaîtrez. Ça, c'est pas du vrai open. Il ne faut pas du tout considérer que vous avez mis. Ça ne compte pas pour l'open. Donc, pour un titre personnel, je vais vous démontrer une plateforme qu'on a développée et je vais vous dire en fait ce que je fais parce que c'est de mon point de vue la bonne solution. Donc, la bonne solution, c'est de déposer une version de vos articles. Et alors, la plateforme qu'on a développée, bon, vous savez que depuis la loi Lemaire, au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit que quand vous avez donné votre copyright, vous n'avez même plus le droit, il y a beaucoup d'éditeurs qui refusent même que vous mettiez la version, votre version auteur en open access. Par exemple, en biologie, ça avait beaucoup ralenti le développement. Maintenant, ils ont un bioarchive, mais avant, ça vient juste de se créer. Parce qu'en biologie, il y avait beaucoup de publishers qui disaient si votre article est déjà sur un site, la version auteur, hein, comme archive, ah non, là, ça compte pas, on ne peut pas le publier, on n'évaluera pas votre article, etc. Ils peuvent vous faire du chantage aussi, vous voyez ? Donc ça varie d'une communauté à l'autre. En tous les cas, depuis la loi Lemaire, que vous connaissez, tout le monde connaît la loi Lemaire. Voilà, en tous les cas, depuis le 7 octobre 2016, la loi française dit que quand vous avez donné à titre exclusif votre copyright, dans le cas des sciences humaines et sociales, au bout de 12 mois, vous pouvez déposer votre version auteur publique sur un site ouvert. Et pour les sciences exactes, on a obtenu, je peux vous dire qu'on s'est bagarré, si ça vous intéresse, je vous donnerai les détails, pour obtenir 6 mois. Et moi, j'étais pour 0, j'ai beaucoup participé à toute cette discussion, pour 0 avec un argument assez simple. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Roberto Di Cosmo avec moi, on avait lancé l'idée que quand un chercheur donne son copyright à titre exclusif, en fait, on ne lit même pas les détails, on est piégé, on a un pistolet sur la tempe. Parce que si on ne donne pas notre copyright, l'article n'est pas publié. Techniquement, c'est ça, en fait. Voilà. Et donc, on avait trouvé une formule disant que quand un chercheur donne son copyright à titre exclusif, c'est nul et non avenu à cause du fait qu'il n'y a absolument aucun équilibre dans la négociation. C'est-à-dire que le publisher, il gagne tout et nous, on perd tout.
Est-ce que ce n'est pas un point de droit, ça ?
Mais oui, non, mais justement. C'est Alors, attendez, là, le cas. Déjà, si vous retournez à l'avis au comité d'éthique que j'avais écrit, j'avais montré qu'en droit français, en fait, tout le système du copyright est illégal. Je m'explique. Les toutes premières choses que j'ai faites pour préparer ce rapport, j'étais allée voir, il y avait 3 juristes à l'époque au CNRS, avec mes dizaines de copyright transfer forms que j'avais signés. Et je leur expliquais, je mets la version publiée sur mon site web, quel risque juridique je cours. Et à mon grand étonnement, ils m'ont dit « Oh, mais madame, on n'y connaît rien en copyright. C'est pas notre problème. » Alors, je dis « Pourquoi ?»« Ah non, nous, on connaît le droit des brevets, mais pas le droit du copyright. » Et parce que, depuis la loi d'Avsy, en fait, le copyright appartient à l'auteur. Et c'est justement parce que le copyright nous appartient qu'on peut le donner. Parce que quand vous lisez les copyright transfer forms, il y a écrit en tout petit, si vous êtes un civil servant d'un pays du Commonwealth, vous pouvez pas... On ne vous demande pas de signer. Pourquoi ? Parce que votre copyright appartient à The Crown, Crown d'Angleterre. Si vous êtes civil servant américain, ça appartient à The Great Congress. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit. Votre signature n'a pas de valeur. Donc, ils ne vous la demandent pas. Et en fait, bon, éventuellement, ils discutent avec des instances plus hautes. Donc, alors, ça c'est le... Donc, on m'a dit, ça ne nous regarde pas. Alors, quand j'ai rédigé, si ça vous intéresse, vous le direz, j'ai pris après un juriste privé. Personnel, à qui j'ai posé le même problème. Et il m'a montré qu'en droit français, parce qu'en France, on est en droit d'auteur, on n'est pas en droit du copyright. C'est une tradition qui n'a rien à voir. Et en droit français, ce qu'on signe, les copyright transfer forms sont illégaux. Parce que pour que en droit français, en droit d'auteur, un contrat soit vrai, il faut que ce soit un vrai contrat et qu'il y ait échange de compensation, échange d'argent. Et puis, le contrat est valable pour un produit, pas comme ce que j'ai malheureusement passé un peu vite. Quand ils vous donnent aussi, ils vous disent, vous donnez tous les produits dérivés, vous donnez on donne tous les droits sur tout ça, c'est du droit du copyright. Et alors après, j'ai consulté au niveau international, c'est-à-dire que je connais bien des juristes Creative Commons, et eux, ils m'ont dit, j'aurais posé le même problème, et j'en suis arrivée au problème suivant. Donc, effectivement, en droit français, tout ça, c'est illégal. Simplement, il n'y a pas de droit international là-dessus. Et le droit, et tous les journaux dans lesquels vous publiez, si vous regardez, en cas de litige avec l'éditeur, c'est un tribunal à New York, c'est écrit en tout petit quelque part, donc on est en droit américain. Et aux États-Unis, c'est du droit pénal. Tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est vraiment méchant. Hein. C'est de la prison, vous vous souvenez, vous avez entendu tous parler d'Aaron Swartz, j'imagine. Ouais. C'était 35 ans de prison, et puis une fortune, des millions, etc. Voilà. Et donc, c'est du pénal. Et alors, la grosse difficulté qu'on a, c'est que, bon, je suis poursuivi par un éditeur en droit du copyright parce que j'ai mis mon article là, c'est grave. Si je quitte pas la France, ça va. Mais si je vais aux États-Unis, là, j'ai des ennuis, il ne faut surtout plus que j'aille aux États-Unis. Mais de toute façon, je suis condamné aux États-Unis, mais après, ils veulent mettre en application le jugement. Et là, il y a un gros problème. Là, il y a un vide juridique, on ne sait pas, parce qu'il n'y a aucune jurisprudence. Il y a probablement dans des accords de type, vous savez, TAFTA, les accords bilatéraux franco-américains, une formule qui dit qu'en cas de conflit sur des questions de propriété intellectuelle, ça sera le droit américain qui s'applique, à mon avis. Mais on ne sait pas si c'est dedans. Donc, il faut qu'il y ait un jour un ou deux procès, et après, on en saura plus. Mais en fait, on a quand même un risque à cause du fait que le droit international n'existe pas. Alors, au niveau du droit international, alors si vous lisez le texte que j'ai écrit pour Moldas, j'avais bien insisté sur le fait que on a la main quelque part. On pourrait faire du droit du copyright. Je suis aussi beaucoup intervenue dans la négociation qui a eu lieu jusqu'à l'année dernière sur le droit du copyright, la révision du droit d'auteur à Bruxelles, en disant qu'il faut mettre la recherche en dehors de ça, parce qu'ils ont fait un truc qui est dangereux pour la recherche, parce que ça renforce les droits de ceux qui ont la propriété intellectuelle. Et comme nous, bêtement, on l'a donné aux publishers, ça renforce les droits des publishers. C'est ça ce qui a été voté il y a maintenant quelques mois à Bruxelles. Mais moi, ce que je pensais, en fait, ce qui est écrit dans le texte que j'ai écrit, c'est que on regarde au niveau mondial. Au niveau mondial, le droit d'auteur, est... il y a beaucoup de pays de droit d'auteur. On a toute l'Europe, sans les pays, les ex-Commonwealth, donc ça enlève l'Angleterre, etc. Mais l'Amérique latine est en droit d'auteur. Donc le reste de l'Europe est en droit d'auteur. Le Japon est en droit d'auteur. La Corée est en droit d'auteur. L'Inde est en principe en droit du copyright, mais depuis qu'elle a été communiste, elle n'a pas de droit d'auteur. Vous savez très bien que tous les bouquins sont... On a des versions pirates tout le temps en Inde. La Russie, dans les pays communistes, en principe, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est contre la... D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais être... Il y a peut-être des gens dans la salle assez vieux comme moi pour que les éditions de Moscou, on a appris une bonne partie de la physique grâce aux éditions de Moscou qui seraient équivalent à 10 euros aujourd'hui. Parce qu'il n'y a sûrement pas de droit d'auteur, ça coûtait rien. Donc reprenons, il y a deux pays qui restent pour moi un gros point d'interrogation, c'est la Chine, parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va basculer, mais ça va basculer vraiment du côté du copyright, et puis la Russie. Et en tout cas, au niveau, si on arrivait à faire tous les pays droit d'auteur et qu'on impose le droit d'auteur pour le domaine scientifique, on n'aurait pas de problème, parce que le droit d'auteur protège les auteurs, alors que le droit du copyright protège les publishers. C'est simple, vous pouvez même regarder historiquement, en privé je vous raconterai l'historique qui montre que c'est très clair. Alors, ça, c'est pour la loi. Alors, une plateforme qu'on a développée, donc c'est un petit groupe de... Ils étaient étudiants à l'époque en informatique à l'école normale. Là, les cinq que vous voyez. Antonin, Antoine, Thomas et Pablo. Donc, on a monté une association qui s'appelle CAPS, Comité pour l'accessibilité aux publications en sciences et humanités. Et on a développé une plateforme qui s'appelle Dissémine. Donc, on peut vous dire le prix, étant donné que c'est tout autofinancé. C'est 500 euros par an. On loue les serveurs. On a un site web qui s'appelle dissem.in. Et l'intérêt de cette plateforme, à mon avis, elle est importante pour l'usage et pour vous. C'est que vous mettez le nom de n'importe quel chercheur dans n'importe quelle discipline. Il faut mettre le prénom et le nom. Et qu'est-ce qu'on fait? On moissonne dans les bases comme Crossref. Vous voyez ce que c'est un DOI, Digital Object Identifier. Donc, le DOI correspond, derrière le DOI, vous avez un numéro unique pour chaque article, et derrière ça, vous avez les métadonnées de l'article. Métadonnées, c'est les noms des chercheurs, c'est le titre de l'article, c'est le résumé de l'article. Et cette base est ouverte, parce que les publishers en ont besoin. Quand vous faites des liens, il faut savoir où ça va, qui vient. Donc, on moissonne dans Crossref et dans des mots qui s'appellent Base, on moissonne à peu près 90 millions d'articles, et on reconstruit la liste pour chaque chercheur de ces articles. Au moins, ce qu'on trouve sur Crossref. Et bah, le temps est en train de tourner, c'est ça? J'ai un problème de temps, oui. Alors, je démontre vite Dissémine. Voilà, alors, donc, qu'est-ce qu'on voit? On sort la liste de tous les articles qu'on a trouvés en disant lesquels sont en open access. C'est ça qui est important, là, je vais avoir un pointeur. Tous ceux qui sont verts, ça veut dire que les articles sont déjà en open access. Et à ce moment-là, vous avez un bouton download et vous le chargez tout de suite. C'est comme Scholar, c'est mieux que Scholar Google. Hein. Vous avez accès à l'article tout de suite. Tous ceux qui sont en rouge, c'est que c'est pas en open access. Et là, on va sur une autre plateforme qui s'appelle Sherpa Romeo et on vérifie la politique du publisher. Et on dit à l'auteur, si c'est bleu, regardez le code, c'est si c'est bleu, vous avez le droit de mettre cet article en open access, soit parce que la période d'embargo est passée, soit parce que le publisher, comme typiquement effectivement APS, l'autorise. Si c'est gris, c'est qu'on ne sait pas. C'est un publisher qui n'a pas donné sa politique. Et noir, il l'interdit. D'accord ? Et alors, donc on a fait cette plateforme surtout pour les articles qui ne sont pas en open access, pour que les chercheurs le mettent en open access. Alors là, vous avez donc vos articles qui ne sont pas en open access. Vous avez un bouton upload. Et vous préparez le PDF de votre article quelque part. Et vous allez le déposer. Et vous allez voir, on dépose en un clic. C'est très, très rapide. Donc, on vous met tout de suite la liste. Là, justement, j'avais pris un de mes articles qui est American Institute of Phoenix, qui, elle, autorise même la version publiée. Donc,
on vous dit tout de suite quelle version vous avez le droit de nous poser. Comme on a moissonné les métadonnées, vous n'avez pas à remplir tous les noms des co-auteurs et tous ces machins comme le demande Al.
Ouais, c'est fait automatiquement. Et bing. Alors là, c'est le seul moment où on vous demande quand même de vous enregistrer. Parce qu'on vérifie que vous êtes bien l'auteur de l'article. On ne va pas se mettre à n'importe qui va déposer n'importe quoi. Donc, et là, on conseille d'avoir... Vous savez tous ce que c'est Orchid ? Voilà, donc si vous avez un numéro Orchid, vous rentrez directement avec votre numéro Orchid. On ne prend aucune donnée sur vous. On vérifie juste que vous êtes l'auteur de l'article. Voilà. Et là, on vous dit quelle version vous avez le droit de mettre. Et on vous laisse le choix sur trois plateformes. Moi, à titre personnel, je préfère ces Zenodo. Vous connaissez Zenodo ? Vous êtes en physique des particules. Ah non, pardon, je fais des erreurs. Alors, il y a peut-être un diffusien des particules. Ah oui, non, c'est vrai, votre labo. Non, il y a des gens dans ce bâtiment, parce que j'ai croisé quelqu'un qui diffuse des particules. Et bref, en tous les cas, c'est au CERN. C'est une plateforme qui est géniale pour déposer tous les articles, les codes, aussi les données. C'est très, très bien fait techniquement. C'est tout fait en open source avec quelque chose qui s'appelle Invideo. Donc, c'est nickel et c'est financé par la Commission européenne dans le cadre d'un programme qui s'appelle OpenAir. Vous connaissez OpenAir ? Voilà. J'ai qu'à cette plateforme, est tout à fait génial. Et moi, je mets tous mes articles dedans. On a une interface avec HAL. Donc, non, mais c'est bien. C'est-à-dire, justement, si vous les déposez dans HAL et que vous passez par Dissémit, c'est beaucoup plus rapide. Parce que comme on a moissonné les métadonnées, vous n'allez pas les rentrer. Et là, malheureusement, en négociant avec HAL, en fait, c'est HAL qui nous a demandé de faire cette plateforme pour eux. Et ils ont même payé pour ça. Ils ont tout de payer pour ça. Et là, ils nous demandent qu'il faut que vous choisissiez aussi dans quelle discipline vous êtes. Moi, ça m'énerve, parce qu'en fait, un article, il est souvent à cheval sur plusieurs disciplines. Mais en tout cas, HAL nous demande ça. Voilà. Et en deux clics pour HAL, vous allez déposer. Puis on a une autre plateforme qui est le Open Source Frame, mais ça, c'est encore autre chose. Une autre possibilité. Et on peut en rajouter. Hein, c'est, voilà. Et instantanément, après vous avez cliqué, bing, là, mon article est sur Zenodo, et vous pouvez tout de suite le télécharger. C'est instantané. C'est pas comme avec HAL, où il faut attendre 8 jours, que quelqu'un ait vérifié, que tout était bien, je sais pas quoi. Voilà. Et alors, le code est en open source, donc sur GitHub. Et surtout, l'avantage, c'est que c'est développé collectivement, c'est-à-dire que on a des... Par exemple, lui, c'est un lycéen qui connaît très bien Python. Quand il a commencé à travailler pour Elysée-Mine, c'est un lycéen. Maintenant, il est en prépa. Voilà, donc c'est le principe, c'est développé collectivement. Ça permet aussi, comme le logiciel est open, n'importe qui peut le prendre. Et là, on a par exemple les 9 universités techniques allemandes qui ont pris Elysée-Mine pour faire leur repository collectif de... Là, on l'avait fait pour l'école normale, ça peut vous donner un exemple. Voilà. Si vous voulez contacter l'équipe, bon, la plateforme, c'est 17 millions. Si vous voulez contacter notre bureau et puis voir le code, c'est tout ça. Alors, une autre solution, je fais très vite. Vous connaissez tous Sci-Hub ? Bon, alors vous savez l'utiliser. Donc voilà. Sci-Hub. Oui, alors non, c'est ça. Le seul truc, il faut suivre le film parce que ça disparaît un peu. Là, j'imagine, parce que vous êtes statisticien, vous connaissez Jean-Pierre Hansen. Bon, alors Jean-Pierre, il est retraité, donc il n'arrive pas à accéder au truc. Et moi, je lui ai appris à faire ça. Ça, c'était pour Jean-Pierre, j'avais fait ça. Et donc, vous voyez, c'est un article un article de 84, je crois. Voilà. Alors, très vite, la politique. Je vais en une phrase. Il y a eu beaucoup de choses quand même qui bougent. C'est-à-dire, en France, là, en ce moment, c'est très, très... Les gens qui sont aux manettes, la personne qui est aux manettes, c'est Marin Dacos. C'est celui qui a créé en 99 revue.org. C'est quelqu'un absolument top. Franchement, il faut lui faire confiance. Et il est en train de mettre en place un système de type Diamond en France la politique française va vers le Diamond parce que le gros avantage qu'a la France par rapport à d'autres pays, c'est qu'on est complètement intégré. Toute la recherche est publique. Université, CERN, c'est public. Et on est homogène. Les Anglais, ils n'ont pas le droit de faire ça. Les Anglais, ils sont obligés d'être coincés dans le gold parce que l'État anglais n'a pas le droit de se mettre en concurrence en faisant une plateforme de publication, par exemple, avec leurs éditeurs. Donc l'anglais, eux, ils sont dans le gold, mais les gens que je connais en Angleterre disent qu'ils essayent quand même de réduire les APC. C'est-à-dire la Wellcome Trust, typiquement, et la UK Council, ils vérifient qu'ils forcent, ils essaient de forcer les éditeurs à baisser les articles processing charge, mais ils ne sont pas prêts d'avoir gagné. Donc la France est partie, elle, beaucoup plus dans le système de plateforme type Centre Mersenne, et il y en aura d'autres. Et alors là, ça c'était toutes les universités de Californie en 2018 avaient fait une déclaration qui est vraiment très bien. Donc souvenez-vous, premier point, vous ne donnez plus votre, vous essayez de ne pas donner votre copyright. Vous dites non, mon institution me l'interdit. Il faut dire des trucs comme ça. Bon, et après vous lirez le détail, mais il y a des politiques pendant des grosses institutions comme donc les universités de Californie qui commencent à faire bouger les choses. Et là, le dernier truc de l'Europe, c'est ce qu'on appelle le plan S, vous en avez peut-être entendu parler. Bon, je vous le montre, il est sorti. Ouais, il est sorti le 4 septembre, mais en privé, je vous en parlerai plus. Mais là, disons, il y a quand même des choses saines. Au départ, ce plan a été écrit par le conseil scientifique de l'ERC. Donc, au départ, c'est eux qui sont derrière ça. Et l'ERC est quand même une instance qui veut que les choses soient pas trop mauvaises par rapport à la recherche. En tout cas, premier truc, l'auteur garde leur copyright et ils mettent une licence CC BY. Ça, c'est la recommandation, ce que je vous ai déjà raconté. Ensuite, un autre truc qui est important, les funding agencies, c'est-à-dire ceux qui financent la recherche, vont vérifier que c'est bien appliqué, c'est-à-dire qu'ils vont quand même vous obliger à ce que vos articles soient en accès ouvert, parce que bon.
Moi, à titre personnel, je n'ai jamais candidaté à l'ERC, je considère que ça fait partie des choses que
je ne suis pas au comité national, j'en ai fait partie pour l'évaluation des chercheurs ou l'entrée des candidats à l'ECR. Ben oui, mais les probabilités, donc un chiffre, est vachement utilisé. Et la commission d'affaires, ce chiffre n'est pas utilisé pour l'ensemble des sections.
Il faut changer
de place. Oui, mais il faut dire aussi à un scénariste qu'il ne faut plus jouer sur cette carte-là. Et ça, le scénariste ne va pas le faire.
C'est vous, le scénariste.
Oui,
disons.
C'est juste vous.
Oui, non, le scénariste, c'est nous. Non, absolument.
Et c'est limité ça, mais globalement, la pression fait que.
Moi, à titre personnel, quand j'ai été nommé au comité national, j'ai refusé. En disant, écoutez, j'ai été nommé par la direction, et je suis désolée, le comité national, c'est très mal emmanché par le fait qu'il y a deux tiers élus syndicaux, il y a un tiers de nommés, et je ne serai au comité national que quand il y aura des tirés au sort. Si je suis tiré au sort, en tout cas, si je suis tiré au sort, je viens au comité national. Moi, j'aime beaucoup le côté paritaire, mais il faut des équilibres. Et le mieux, c'est de tirer au sort. Il faut les trois. Il faut les trois. Il faut d'abord voter sur une liste. Hein. Ensuite, quand on voit que si on a bien couvert les disciplines qu'il faut, mais il manque des gens, un rapport province-Paris, etc., ou homme-femme, on fait une deuxième, on fait des bins avec, par exemple, que des femmes si on veut remplir des femmes. On tire au sort, là, on tire au sort. Et s'il y a encore des trous, la direction rajoute des gens qui manquent. Voilà. Mais moi, je n'aime pas l'idée que. Bon, bref, on ne va pas discuter plus. C'est des grosses machineries qui sont quand même. qui vont pas si bien que ça. Voilà. Alors, j'ai fini. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur. Donc, ça, c'est mon mail. Ça, c'est mon chose de chercheur. Et tout ce qui est open science, en fait, une sorte de base de données que je fais pour moi-même. Donc, vous trouverez des choses diverses et variées. Et si vous allez dans Marie-Farge, vous verrez les conférences que je donne, les articles que j'ai écrits, l'avis au comité d'éthique, si vous voulez aller le voir. Il faut fouiller là-dedans. Et tout ça, c'est accessible, vous en faites ce que vous voulez après. Je n'ai pas les droits sur tout, hein, c'est clair. En particulier dans la partie About Open Access, je mets plein d'articles. En gros, je mets des articles que je trouve, ou les déclarations qui apparaissent, tout ce qui est intéressant en Open Access.
Ouais. Merci.
Bon, j'ai prévu de rester aujourd'hui, donc en petit comité, on discutera plus en détail. Oui, oui. Oui, absolument.
Il y a deux chiffres que je ne connais pas forcément. Un, c'est quel est le coût moyen aujourd'hui d'un article publié, étant donné tout le système d'abonnement, de processing charges, etc. Est-ce que ce n'est pas autour de plusieurs milliers d'euros, 4, 5, 6 000 euros peut-être? Donc, ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième, c'est en réalité, qu'est-ce que ça coûterait si on passerait à un système qui serait davantage dans l'autogestion, parce qu'il y a quand même des coûts incompressibles, et qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'à la limite, ça peut aussi fournir un argument économique pour ceux qui sont au-dessus. Ça, c'est l'économie qu'on réaliserait en reprendre la main.
Alors, avoir des chiffres propres en termes économiques, c'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que, bon, là, on parle des articles processing charge, mais il reste les abonnements, il reste... Ah, ben oui, non, mais justement, et vous le savez peut-être pas, j'ai pas eu le temps de le dire, mais les abonnements sont secrets. C'est-à-dire que les bibliothécaires qui sont ici, elles savent que si elles donnent les montants des contrats, ils sont secrets. C'est des marchés publics, mais c'est une exception. C'est une directive de Bruxelles qui est tournée. Il y a une exception à la loi des marchés publics, là aussi j'en parle dans ce que j'ai écrit pour MEDAS, en disant il faut absolument changer ça. Cette exception dit que pour les cas où il y a des enjeux de propriété intellectuelle, les contrats sont non-disclosable. Donc les publishers peuvent poursuivre des bibliothécaires ou des gens qui auraient rendu publics les montants des contrats. Et les 175 millions qui ont été signés par la France il y a maintenant 4 ans, si on les a fait sortir c'est des chercheurs qui ont pris la responsabilité d'écrire un article qui les sorte, mais les bibliothécaires
ça c'est la première donnée, mais la deuxième est
donc on ne peut pas le savoir. Et si vous allez sur mon site en regardant l'avis que j'ai écrit pour le comité d'éthique, vous verrez aussi toute la bibliographie que j'ai utilisée pour cet avis. Et il y a un travail absolument génial fait par un économiste de Santa Barbara, que peut-être les gens ici ça le connaissent, Ted Bernstrom, qui a écrit en 2003 un article Costly Journal for Free Labor. Et dans cet article, il essayait d'avoir le prix de toutes les revues qu'il avait trouvées. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore trop le bundling, c'est-à-dire ces techniques. On arrivait encore à savoir à peu près quel était le prix d'une revue par abonnement, etc. Donc, il avait fait une évaluation dans plusieurs domaines. Et lui, il voulait en fait arriver à évaluer combien ça vous rapporte, combien ça vous coûte plutôt, la citation. C'est-à-dire combien vous devez payer. Il prenait les journaux, il prenait leur prix d'abonnement et la probabilité que vous soyez cité. Avec des trucs, effectivement, je dis impact factor quand même des journaux. Et lui, c'est un très, très bon économiste qui a toujours été en ligne de front pour ces questions d'open access. Et malheureusement, il a été poursuivi, il a eu plein d'ennuis parce que c'est interdit en principe. Et alors, en Angleterre et aux États-Unis, il y a une loi de Free Information, ça arrive un peu à se protéger, mais c'est très très difficile. Et la fin du film, c'est que Ted Bernstrom et d'autres, chez les économistes, en fait, c'est eux qui sont plus en avance. Il y a très peu de gens qui savent ça. Ils ont fait un logiciel qui s'appelle REPEC. Qui est-ce qu'on entend parler de REPEC ? C'est la base d'articles ouverts la plus large au monde, REPEC, et tout est en open source, tout est nickel, ils ont fait ça il y a très longtemps, et ça marche bien. Donc voilà, les économistes ont été en avance, mais alors cet article-là déjà montrait que c'était quasiment, à l'époque, impossible de faire une évaluation propre, et alors maintenant c'est impossible. Et les APC, justement, un autre truc, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je trouve ça scandaleux, vous allez sur le site d'une revue, ils ne vous disent pas combien sont les APC. En gros, on vous fait soumettre les articles, etc. Vous avez à cocher une petite case qui dit « Je veux que mon article soit en open access », vous cochez, et vous n'avez pas compris en fait que vous allez recevoir une facture. Et moi, dans le cas quand j'avais accepté, donc sur le site, j'ai coché, pour ne pas avoir à signer le copyright, j'ai coché en disant « Je vais payer les APC, 2200 ». Quand je suis allée voir le directeur du labo, il a dit « Ah non, moi je ne paye pas parce que c'est une revue en hybride. Il y a l'abonnement et et l'APC. » Alors là, j'étais très très mal. J'ai essayé de me dire, je décoche la case, je reviens dans ce système. C'était impossible. Donc c'est un co-auteur qui est à Berlin qui a accepté de payer les APC. Et en plus, on a perdu un temps fou parce que les APC, le paiement des APC est sous-traité à une boîte. Ça s'appelle Rightlinks. Le temps de chercheurs bouffé par des bêtises pareilles. Voilà. Donc, c'est un système. Alors, le danger aussi, c'est qu'aujourd'hui, et ça, je dis ça aussi pour les bibliothécaires, c'est très important. Là, il y a les nouvelles négociations Elsevier qui sont en cours, parce que bon, c'est tous les 4 ans. Mais c'était juste à se terminer en 2000, là maintenant. 14. Oui, je crois que c'est en négociation maintenant, si je ne me trompe pas. Et alors, maintenant, la nouvelle mode, c'est génial de la part des publishers, c'est que
ils négocient à la fois les abonnements, le prix des abonnements, parce qu'il y a encore beaucoup de revenus par abonnement, et le prix des APC. C'est-à-dire qu'en fait, on va signer des contrats prépayés à Elvire pour les APC, ou prépayés à Springer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va concentrer encore plus entre juste les deux gros qui peuvent se permettre. Toutes les petites sociétés savantes n'ont pas du tout le moyen de faire ce genre de négociation, donc elles vont être out. Et le chercheur, maintenant, il croira que c'est gratuit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous recevez une facture, on peut dire quand même 3 000, 7 000, c'est quand même exagéré. Bientôt, vous n'aurez plus de facture, ça sera prépayé. Il y aura miraculeusement une instance qui aura mis beaucoup d'argent là-dedans. Alors, ceux qui ont lancé ça, c'était il y a 3 ans, la Max Planck Society. À l'époque, j'avais déjà dénoncé ça. Moi, les tout premiers qui ont lancé cette idée, c'était Scope 3 au CERN. C'était les gens de la physique des particules qui ont voulu faire un système comme ça. Je ne rentre pas dans les détails. Mais j'avais déjà dit à l'époque à Salvador Mérida que c'était vraiment pas une bonne idée. Et là, la Max Planck Society a repris la même chose, a signé un contrat il y a maintenant 3 ans avec Springer, où, en gros, si vous êtes chercheur dans un laboratoire de la Max Planck et que vous publiez dans une revue de Springer, vous n'avez pas payé d'APC. C'est pas parce que c'est gratuit, c'est parce que c'est déjà prépayé. Et alors là, on a dénoncé, on a écrit avec Benoît un article dans le Mediapart pour dénoncer ça. On a aussi écrit un article à l'European Mathematical Society où on a montré en fait une division d'intérêt de la Max Planck. Parce que Springer, Nature, c'est possédé par qui? Nature, c'était possédé par qui? Macmillan. Vous vous souvenez? Nature, Macmillan. Qui était derrière Macmillan? Une famille qui s'appelle la famille Kronholz, qui est un magnat de l'édition allemande depuis. C'était déjà les éditeurs sous Hitler, donc c'est dur. Regardez les sites, surtout si vous parlez allemand, tapez von Holzbrinck sur les sites Wikipédia allemands, vous apprendrez des jolies choses. C'est là qu'on a appris tout ça. Donc, la famille von Holzbrinck possédait Macmillan. Quand Springer Business Media Science a été sur le marché, ils ont racheté ça. Donc, ça fait Springer Nature. Ça reste une boîte dominée par la famille von Holzbrinck. C'est pas coté en bourse, comme je veux dire. C'est encore plus opaque. Mais pire que ça, Stefan von Holzbrinck est membre du conseil d'administration de la Max Planck Society et fondateur de la Max Planck Stiftung, c'est la fondation Max Planck. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris, et là, il y a vraiment du souci à se faire. Et c'est comme ça que le gold est en train de gagner toute l'Europe, parce qu'il y a des intérêts économiques majeurs derrière, et puis nous, les chercheurs, comme on ne dit rien et qu'on ne se fait pas, on est prêts à se faire manger la laine sur le dos, hein, parce qu'on a autre chose à faire, on est dévoué à la science, on n'est pas... C'est pour ça que je pense qu'il n'y a que les gens de mon âge qui devront monter au créneau. Les jeunes, vous faites de la science. Hein. Ou alors, en parallèle, vous montez des systèmes à vous, entre vous, et puis, mais aussi longtemps que vous n'avez pas un poste, vous êtes obligé de jouer le jeu aussi. Il faut jouer le jeu tout en sachant que, bon, quand même, avec Archive, dans votre domaine, parce que vous êtes quand même en physique, Archive nous sauve pour l'instant. Mais il faut savoir qu'Archive, c'est pas garanti. Parce qu'Archive, actuellement, c'est financé à 50% par James Simon. Et la Simon Foundation, ils ne sont pas éternels. On ne sait pas comment ça va être. Et puis le reste, c'est des bibliothèques qui co-financent. Et le problème d'Archive, c'est que la plateforme n'est pas open source, qu'il y a de la propriété intellectuelle dessus. Et moi, j'ai vu des gens de Springer dire en public qu'ils adorent le green. Au sens, on va se payer bientôt Archive. Le jour où Arcade est sur le marché, là, ça fait pas un pli. Et puis quand ils achètent, Mendeley, ils l'ont acheté 10 fois le prix du marché. Hein. C'est-à-dire, ils vont pas par 4 chemins. C'est-à-dire. Donc même les gens qui ont créé Mendeley, qui ne voulaient pas trop avaient fait ça plutôt contre, ben, ils se sont retrouvés. Et ça, si vous lisez mon article pour la commission, j'ai dénoncé plusieurs cas de ça.
Oui. Bon. Voilà, merci.